Nous sommes mercredi 5 mai 2021 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bam!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Bonsoir Méduse.
Bonsoir, c'est bon, heureux d'être invité ce soir.
Invité, l'homme, la légende. Bonsoir Zergy.
Salut.
Et donc, bah, nous sommes extrêmement nombreux ce soir, puisque une grande partie de la rédaction a tenu absolument à parler d'un jeu délirant, un jeu dans lequel les revenus ruissellent fort. Il va au chiotte, je comprends pas. Il va vraiment faire ça. Bref, un jeu dans lequel les revenus ruissellent très très fort quand on a pété les tuyaux. C'est à peu près ça le truc. C'est Good Job.
Yeah.
Me semble-t-il publié par Nintendo.
C'est possible.
Oui. Je dis une connerie.
Ça a été mis en avant dans l'indiz.
Voilà, et donc, bah, comme il y a beaucoup de gens de la rédaction qui ont joué, bah, il y a beaucoup de gens qui viennent en parler. Et en deuxième partie, nous continuerons notre grand sujet collectionniste qui va nous occuper encore au moins une émission après.
Moi, j'ai une question pour Good Job. Est-ce que avoir joué à un jeu, c'est une nostalgie du travail au bureau qui existait encore en début 2020?
Alors, s'il y a un bureau comme ça qui existe quelque part dans le monde, je sais pas si je le fuis ou si je
veux
absolument y être.
C'est le bureau dans lequel on veut tous retourner.
Ouais.
C'est peut-être ça. Bref, mais nous allons commencer tout de suite par un petit tour de table de l'actu. Alors, j'ai très très peur. Je vais commencer par Galaxies, qui a dit qu'il avait une actu surprise.
Alors, attends.
Moi, c'est une actu un peu triste. Il faut savoir que, voilà, je pense, vous savez qu'ici, on a une sensibilité qui est, je pense, plutôt de gauche. Et aujourd'hui, je viens annoncer la mort de cette gauche. Que Ségolène Royal a annoncé qu'elle ne se présenterait pas en 2022. Voilà.
Le jour de l'anniversaire de Karl Marx, elle abuse un peu.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ça, c'est le bicentenaire de Napoléon qui déchaîne les passions sur Twitter, c'est l'anniversaire d'Henri Cavill qui est le meilleur acteur de Superman, on le rappelle.
Et le plus beau gosse.
Donc, et extrêmement BG, hein, si on nous regarde.
Et c'est surtout qu'on voudrait. Alors, je fais un appel solennel à la Warner. On voudrait avoir le moustache cut de Justice League. Parce qu'on a eu la version avec la moustache effacée numériquement, on a eu la version retouchée sans la moustache, on voudrait avoir la version avec la moustache.
Mmh. Voilà, c'est ça.
Et moi, je veux que Netflix renomme le Witcher en Wisher.
Oui.
Ouais, officiellement, c'est comme ça que ça s'appelle en France. Hein.
Non, c'est le sorceleur en France.
Non, mais c'est comme les Wish Lorraine, tu vois.
Oui, tout à fait.
Stop. Moi, je pensais que c'était comme Wisher Enemy.
Voilà, donc c'était ça ta vraie actu surprise, Gabi.
Mais du coup, voilà. Alors, c'est-à-dire que voilà, non, mais c'est pour ça, comme on l'a vu, grand jour de revendication entre Mortel qui demande la moustache cut et l'anniversaire de Karl Marx. Et voilà, bon, bah, c'est la déception, je sais, je pensais prendre cette tribune pour vous partager la nouvelle. Et,
alors,
et le désespoir. Hein.
Alors, attendez, excusez-moi, clic droit, tu es banni pour 30 secondes. ce n'est pas possible, ça, monsieur. Voilà, ce n'est pas possible. Je vais enchaîner avec Zergeek, qui est comme d'habitude des nouvelles réjouissantes. Pour une fois, ça n'est pas Bobby Kotick.
Je sais même plus de quoi c'était. C'était les documents de EA qui ont fui.
Oui, qui ont. Alors qui ont attends, fui, qui petit, se sont petit échappés.
Petite news surprise. Julien Chiez a lancé sa chaîne de télé. Il faudra qu'on se fasse inviter un jour pour se foutre de sa gueule.
Ça va être compliqué.
C'est sérieux.
Ah bah attends, il a vraiment lancé une chaîne de télé, tu te fous de ma gueule?
Oui, enfin, ou un truc sur YouTube où il se filme H24, là, je sais pas quoi, enfin, et c'est chiasse TV.
Oh putain.
Oula.
Oh putain. Attendez, excusez-moi, il y a moyen de rester scotché un bout de temps là-dessus. Hein.
Tu veux dire qu'il nous fait une version de Love Story
de lui,
il est tout seul.
Dans sa vie de geek riche?
Oui, ça doit être ça, ouais. Mais, alors, sinon, je crois que c'est cette semaine. Il y a un employé d'Electronic Arts qui a fait fuir des documents, en fait, enfin, qui a rendu public des documents internes qui montrent que bah, Electronic Arts il pousse tout le monde à aller vers FIFA Ultimate Team. Hein, tu vois, c'est pas des mécanismes de surprise, non, tout le monde doit y aller, hein. Donnez votre argent.
C'est exactement ça, en fait. Ouais. Quand tu regardes les documents, c'est vraiment, il faut qu'il y ait le plus possible de joueurs qui jouent à FIFA Ultimate Team et qui dépensent le plus de possible de pognon.
Et les autres modes de FIFA n'ont rien à foutre. Hein. Tous s'en fut.
Tous s'en fut, donc. Voilà, donc oui, enfin comme d'habitude. Voilà. On a eu aussi Bobby Kotick, revenu annuel triplé, non, quintuplé par rapport à l'année dernière.
Je sais pas si c'est même pas plus.
Et je crois que c'est, il y avait, je sais plus quelle fondation américaine qui donnait le rapport entre le plus haut et le plus bas salaire dans les sociétés américaines. Je crois qu'Activision est dans le top où genre Bobby Kotick gagne 406 fois plus que le salarié qui a le plus bas revenu d'Activision.
Raisonnable. Tout va bien. Ça me paraît raisonnable.
Ça me paraît très raisonnable. Je vais enchaîner avec monsieur.
Mais quoi, à part couler les studios?
Bah c'est même pas pire que ça, puisque c'est quoi, c'était le studio qui fait Spyro, là, Toys for
Spyro
Bob.
Spyro et Crash Bandicoot, c'est « Ah bah non, vous allez bosser sur Call of ».
Alors attends,
non, mais c'est ça, mais donc,
aider part, sur Call of.
À part couler des studios, maintenant ils coulent des licences, puisque Activision, bah, ça devient juste Call of Duty, quoi, finalement.
Bah, le plus triste là-dedans, c'est que Toys for Bob, en fait, comme les ventes de Crash Bandicoot 4 ont apparemment été décevantes, il y a plein de gens qui ont été virés, mais derrière, on leur a quand même dit « Vous allez bosser sur Call of ». Et ensuite, on les a engueulés parce que ça allait pas assez vite de bosser sur Call of. Forcément, on a viré des gens avant.
Alors, qui regarde?
Qu'est-ce que tu fous, Galaxies?
je monte la...
Non, mais attendez, parce qu'on toujours parlé de Julien Chiez.
Bah, ça, c'est qu'il y a marqué controverse. Le premier truc, c'est déontologie.
Alors, mon Dieu.
Rivalité, attention, avec Julien Télou.
Deuxième rue. Là, et regardez. Alias Gollum Love Sandwich, voilà. Je voulais que ça soit juste en stream, machin, je voulais pas interrompre, je suis désolé.
C'était son pseudo sur Joypad.
D'accord, bon, ouais, non. Bon, ouais, voilà, désolé d'avoir interrompu, du coup, je vais juste montrer.
Pour Gollum, hein, pas
c'est
Love Sandwich.
C'est du journalisme total.
C'est ça.
Bref, monsieur Antique, puisque tu as le crachoir.
Exactement.
Alors.
Fais gaffe, il est contaminé, le crachoir.
Non, c'est bon, je suis négatif, je suis plus Covid.
Nice.
Et tu l'as toujours pas du Covid du coup.
Alors je peux juste te dire que le curis de ce soir était très pimenté, donc le goût je l'ai retrouvé, t'inquiète.
Voilà, parce qu'à l'origine tu avais quand même joué à Sonic 2006, parce que tu n'avais plus de goût.
Putain,
la seule solution pour pouvoir apprécier le jeu, avoir le Covid.
Mon Dieu.
Il y a une différence entre le goût et la douleur. Hein.
Et donc bref...
les goûts et les douleurs, tu sais.
Alors, en fait, il y a eu un shadow drop, comme on dit, sur le Windows Store, donc qui est la boutique absolument inutilisable de Microsoft.
Qui utilise ça?
Bah, personne, et apparemment même pas les modérateurs de Microsoft, puisque nous avons un Animal Crossing New Horizon.
Non, c'est
disponible.
Horizons tout court, en fait.
Ah, il y a marqué New Horizon. Attends, je mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller voir. Et donc, si vous vous rendez sur la page, vous remarquerez qu'effectivement, on a le logo du jeu avec une boîte où il y a des personnages de Animal Crossing. C'est bien marqué Animal Crossing New Horizon. Et puis déjà l'ISRB est à plus 10. Je crois qu'Animal Crossing doit être à genre E tout court, tu vois.
Mais
toi, tu regardes la description.
Plus.
Alors, je vais vous faire une traduction en direct. Traversement d'animal, nouvel horizon, nouveaux horizons. Un animal de ferme a laissé ses animaux. Putain, c'est même pas bon en anglais en fait. Je suis en train de le dire. A laissé ses animaux s'échapper. Aidez-les à traverser la cité sans se faire rouler dessus. Il y a 5 personnages différents et une difficulté qui augmente. Alors déjà, je pense que comme moi, vous commencez à flairer un petit peu l'arnaque. Le jeu est à 3€. Bon. C'est pas mal, hein, c'est une bonne affaire en vrai. Donc Animal Crossing PC, et après, on commence à regarder les screenshots, et en fait,
ça n'a rien à voir.
Que c'est juste Frogger. Hein.
C'est Frogger, ouais.
C'est Frogger, mais en vue isométrique avec des animaux cubiques. Et apparemment, ce truc existe sur le Windows Store depuis 2 mois, et personne ne l'a dégagé.
Et surtout que personne, ça veut dire que personne ne l'a vu et que personne n'utilise le Windows Store.
C'est à peu près ça.
Les IA, ça marche pas.
Non, mais surtout, les avocats de Nintendo ne l'ont pas trouvé encore.
Ah bah là maintenant qu'on l'a tweeté sur le dojo, ça va pas tarder. Hein.
Voilà. Mais voilà, c'est assez incroyable. Alors évidemment, je n'ai pas fait du journalisme total, je n'ai pas mis mes 3€ pour pouvoir le tester. Ça a pas l'air terrible, alors on va pas se mentir.
Ouais, hein. Mais attends, c'est disponible sur HoloLens quand même. T'aurais pu faire un effort.
J'ai pas HoloLens. J'ai pas de quoi le projeter sur mon mur. Hein.
Qui a de HoloLens,
HoloLens hein.
Bref, ça m'aurait pas choqué que ce soit sur Stadia, vu qu'on ne peut pas rechercher de jeu dedans.
Si, maintenant il y a une barre.
Si, maintenant, ouais.
Il y a une barre de recherche. Alors pour un produit Google, c'est quand même assez drôle qu'il n'y ait pas de barre de recherche.
536 jours après.
J'avais adoré l'article qui consiste à dire si seulement Google connaissait quelque chose en moteur de recherche.
Exactement.
C'était assez ignoble, mais c'était très représentatif. Je vais finir, puisqu'il faut bien finir à un moment, par une nouvelle rigolote. Donc il y a un nouveau patch de Super Mario 64 qui est sorti sur PC. Alors, vous savez que Super Mario 64, depuis que le code source a été complètement décompilé, c'est le bordel. Hein, y a des mods dans tous les sens, il y a des gens qui font n'importe quoi. Et là, je pense que le n'importe quoi a atteint un niveau un tout petit peu supérieur, puisque maintenant, Super Mario 64 est jouable en ray tracing 4K 60 FPS sur PC.
Incroyable.
À tout de même.
Alors, ceci dit, moi, j'avais vu le mode avec des têtes de Macron partout. Hein.
Oui, c'est le cul, les chomps sont des Thomas Le Train.
Il lui aurait d'être rire, celui-là. Mais pour le coup, apparemment, les mecs qui sont allés à fond, parce que t'as quand même des modes, des modifications vraiment de confort, ce qui fait que c'est presque plus intéressant de jouer Mario 64 sur son PC que sur la compilation Switch.
Moi, je l'avais installé, enfin installé, téléchargé le jeu pèse moins qu'une image sur PC. Et effectivement, c'est très très, ça se prend super bien en main, quoi. Déjà, le jeu à l'origine sur Nintendo 64 n'a pas tant vieilli que ça vraiment niveau contrôle. C'est plutôt la caméra qui a pris un coup. Mais alors sur PC, c'est vrai qu'il y a zéro souci, quoi. Il y a vraiment, ça se joue très bien. Effectivement, la caméra est un peu compliquée. Et sinon, ça joue très bien, c'est très joli, ça tourne sur n'importe quel truc enfin, à partir du moment où ça lance Windows, je pense que ça peut faire tourner Super Mario 64. Et c'est une très bonne manière de faire le jeu, je pense.
Quelle époque formidable. Qui aurait cru qu'on dirait ça un jour?
Je vais vous montrer la version Ray Tracing là, sur le live. Je sais pas si ça va bugger ou pas, voilà. Mais...
Bref, nous allons marquer une première pause musicale. Nous
non,
allons écouter...
parce que je hijack la dernière position du tour de table.
Oh mon Dieu.
Pour rappeler aux gens que... Les temps t'attends.
Que la Belgique a vraiment des connexions pourries.
Oui, aussi. On aura les résultats annuels financiers de Nintendo le moment où on couvrira l'argent chez Nintendo. Voilà.
Et du coup,
mais oui, c'est clair.
Année, le pognon de cette année, il est en chiffres ou en mètres cubes?
En mètres cubes.
Les deux, monsieur.
Bref, c'est demain, je crois.
On va remplir la piscine de Picsou, là, je crois.
C'est demain matin. Les résultats annuels, il me semble.
Demain matin, ouais.
Ouais, donc connectez-vous sur le Twitter d'Oscar Le Maire. Hein.
Je pense qu'effectivement,
pour voir les 40 millions d'Animal Crossing en direct, j'annonce.
C'est un peu ça.
Je me mouille pas trop. Hein.
Voilà, nous allons donc nous écouter un petit morceau de l'OST de Good Job, qui est composé par un monsieur qui s'appelle Antonio Teoli. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il est italien.
Teoli, Antonio Teoli.
Bah oui, mais ça arrive. Voilà, c'est un morceau qui est donc
peut-être
extrait...
malade aussi.
Ah oui, non, mais c'est possible, il y a peut-être le Covid. Stop, please. Donc, je n'arrive pas à retrouver le jingle. C'est pas grave. Bref, donc nous allons écouter un petit morceau de Good Job. Il s'agit de Floor 1-1, c'est la finance. Vous allez voir que c'est un jazz plutôt ambiance, donc c'est pas forcément foufou, mais dans la BO, ça se détache un tout petit peu. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, on se retrouve tout de suite après.
Le grand hit.
Il ressemble à un 8.
Et nous voilà de retour. Mon Dieu, c'est... Oula. Et nous allons donc parler de Good Job. Alors, je suis le seul à ne pas avoir joué à Good Job. Peut-être Zergy aussi.
Moi non plus.
Oh, on dit que t'as pas joué à Good Job.
Non, j'ai pas joué à Good Job.
On va vous le vendre.
Alors, je vais laisser Mecton faire une petite introduction pour dire qu'est-ce que Good Job.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Parce que voilà, c'est le jeu du salarialisme, on a dit.
C'est ça, alors c'est le jeu du fantasme. Il faut que tu imagines tout, ces petits dessins, tu sais, que tu as en formation sur le secourisme, la sécurité au travail, tout ça, comme si tous ces petits dessins prenaient vie et partaient en couille.
C'est très 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 représentatif.
Mais partent en couille violemment, hein.
Alors, donc, c'est un jeu dans lequel on est au travail, donc dans un bureau dans lequel il y a plusieurs étages, de ce que j'ai compris.
C'est ça, au début, tu joues un péon, il y a une petite cinématique d'intro, tu joues un péon, en gros, qui va commencer tout au bas de l'immeuble de son entreprise, il va devoir accomplir certaines tâches pour prouver sa valeur et accéder à l'étage de la direction.
Et donc, à chaque fois, l'idée, c'est l'objectif que tu dois accomplir, il pourrait être fait sérieusement, mais personne ne fait ça, ou c'est de toute façon pas possible de le faire sérieusement ?
Bah, c'est quand même tentant de faire de la merde.
Comme dans la vraie vie, donc.
Le jeu ne t'incite pas vraiment à tenter la manière sérieuse dès le début, même si je suis certain qu'il y a des gens qui le font. Mais en gros,
tu peux, ouais. Tous les niveaux sont
très vite dans
réalisables
de manière sérieuse. Dans des situations où ça part en vrille. Et donc, tu continues dans cette lignée-là, tout simplement.
C'est ça. En gros, chaque niveau, il y a une solution de droite et une solution anarchiste.
Mais est-ce qu'il y a un speedrun serious pour cent où le mec fait que les solutions sérieuses ?
Putain, ne rien péter.
C'est peut-être plus compliqué que ça, en fait. Hein.
Rien péter,
c'est pour la prochaine HGDQ, ça y sera.
HGDQ, oui, il y a peut-être moyen. Ouais. Parce que c'est ce genre de conneries.
C'est un des aspects intéressants du jeu, c'est que tu jouais de deux manières. Et en fait, tu peux pas avoir un rang S si tu le fais pas de manière sérieuse, en fait. Donc, tu peux la première fois le faire pour le fun et y aller en mode YOLO. Et après te dire, tiens, je vais tenter le challenge et tenter le rang S. Donc, c'est un jeu qui a déjà de base une bonne rejouabilité.
Ouais. Ça, c'est clair. Là, vous l'avez pas vu, mais dans ce cas d'Imeduse, le YOLO, il est en majuscule capital.
Majuscule capstock avec plein de O le dernier L, c'est plutôt YOLO.
Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit exemple de comment ça marche, genre le premier niveau, le premier étage, histoire qu'on se prenne pas trop.
J'ai affiché à l'écran là le premier niveau.
Ouais, c'est de la radio pour le podcast.
C'est de la radio pour le podcast, alors, monsieur.
Non, mais justement, je voulais le décrire. C'est-à-dire qu'il y a, donc, vous êtes dans une entreprise, il y a un vidéoprojecteur qui pète et vous devez ramener un autre vidéoprojecteur. Le problème, c'est que soit vous passez par les portes, soit vous vous dites, il y a un câble électrique, ça fait catapulte, et on l'envoie à travers les murs.
Mais pourquoi ?
Parce que...
Et du coup, parce que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fun.
Et surtout, en fait, c'est parce que c'est du gameplay émergent, en fait. C'est-à-dire que le niveau démarre, on te dit juste, il y a un photocopieur là-bas, il faut que tu l'amènes là, et après c'est tout. Tu te rends compte qu'en passant les portes, en bougeant des trucs, il y a des choses qui se passent et tu vas très vite effectivement te retrouver à catapulter une armoire à travers les murs.
Mais est-ce que ça va pas plus lentement de le faire à la va te faire foutre que de le faire, legit
non.
Ou sérieux ?
Justement, le faire sérieusement, ça prend plus de temps, beaucoup plus de temps que de le faire, que de le balancer. Et du coup, c'est pour ça. Soit tu cherches à obtenir un A. Donc en fait, il y a trois. Vous allez voir là, ça passe sur l'écran. Il y a trois indicateurs. À la fin d'un niveau, il y a votre temps, il y a l'argent que vous avez fait dépenser, que vous avez fait perdre à la compagnie en bien.
Il
y a
le nombre. Ça c'est très bien.
Il y a le nombre d'objets cassés. Et
je
donc,
rappelle.
Soit vous décidez de. Pardon. Vas-y.
Je rappelle à tous les salariés que quand on chie au boulot, on est payé à faire de la merde. Et là aussi, on fait perdre de l'argent à la société. C'est très important.
D'ailleurs, je m'excuse pour tous mes coworkers, mais en même temps, maintenant, vous avez une machine à boisson dans les chiottes, alors arrêtez de vous plaindre.
Non, parce que justement, le truc, c'est que la note de temps est plus grande sur l'écran de score et compte plus dans la note finale.
Parce que le
donc,
temps,
soit
c'est de l'argent,
tu décides.
Ça paraît logique.
Oui, exactement. Sauf que le fait est que donc c'est plus rapide de balancer l'armoire à travers le bureau.
Tout l'étage, quoi.
Voilà. Oui, j'allais dire, voilà, c'est ça. C'est plutôt à travers tout l'étage. Sauf que si sur ton chemin, il y a un vase doré, ou il y a un tableau, ou il y a tout simplement le mur qui coûte de l'argent, hein, spoiler.
Ah bon?
Ça vous empêche d'obtenir un S. Et par contre, vous obtiendrez un A très facilement, parce que vous l'aurez fait très rapidement, quoi.
D'accord, mais est-ce qu'il y a moyen de combo les deux, c'est-à-dire de te dire, si t'arrives à le faire très très vite, mais sans rien casser, en fait, c'est là que t'as le S, ou le rang S, le temps ne compte pas du tout.
Si, si, le temps compte.
Le temps compte dans tous les cas.
Le temps compte pour obtenir un S, mais j'ai pas encore testé. Donc, comme dit Galaxis, tu peux détruire autant de trucs que tu veux. Tu peux quand même avoir un A, parce qu'au final, c'est le temps qui, c'est seul le temps qui prévaut. Mais par contre, je crois que pour avoir un S, tu dois vraiment rien détruire et causer zéro dollar de dommages à ta compagnie. Mais là, du coup, je sais pas si le temps prévaut encore, en fait. Tu vois, t'as peut-être d'autres façons de mesurer le jeu. Faudra qu'on teste.
J'avoue que j'ai pas fait de S, mais
ouais, non plus.
Il y a 4 niveaux, donc il y a 3 niveaux plus un plus grand par étage, et il y a 8 étages, je crois, ou 9.
Ça, c'est un genre, ouais.
C'est un espèce de puzzle boss. Il y a une durée de vie assez.
T'as 3 niveaux obligatoires. Ouais, t'as 3 niveaux obligatoires par étage, et je crois qu'il y en a un qui est facultatif.
C'est le fameux niveau C, c'est ça, qui est un niveau.
Non, le dernier niveau, il est quand même obligatoire, mais effectivement, il est plus grand, et tu mets en pratique ce que t'as appris dans le niveau d'avant, quoi. Enfin, en tout cas, ça demande plus de. Un niveau qui est plus grand avec des objectifs plus longs.
Avec une combinaison mécanique.
Mais ouais, dans tous les cas, donc ça a une durée de vie assez conséquente en vrai. Et ce qui est fort, c'est qu'on disait, voilà, tu peux le faire soit sérieusement, soit en tout cas sans tout. Et c'est pas forcément moins drôle en le faisant sérieusement. Par exemple, il y a un niveau sur lequel. Bon, alors déjà, en parler avec des potes, c'est très drôle sur le groupe de Jobar quand on s'échangeait les.
Ah, on s'est bien marré. C'est
vraiment drôle. Et notamment, moi, je me rappelle d'un niveau où tu dois rétablir la connexion Wi-Fi. Donc, il y a le serveur, il y a le modem qui a pété à un côté, et donc il faut aller à l'autre bout. Sauf que il faut ramener la prise Wi-Fi du modem d'origine à l'autre bout de la pièce. Et pour ça, il faut passer à travers des portes automatiques. Le problème, c'est que les portes automatiques, elles s'ouvrent quand tu passes devant, mais dès que tu es derrière, elles se referment, ça bloque le câble. Et donc là, tu as plusieurs solutions. Donc tu dis soit tu casses les murs et tu passes, tu vois, tu t'en fous. Mais
c'est parfaitement voilà. Cohérent.
Ce qui est voilà, bon,
c'est exactement ce qu'on fait en entreprise, hein, je voilà.
Et tu voilà, tu non mais attends, parce que tu peux casser le mur avec un autre de tes collègues, c'est-à-dire que tu le balances en catapulte à travers le mur.
Quoi ? C'est un peu de la merde, hein, les murs quand même. Hein.
Soit,
oui,
soit
alors,
ça.
Écoute, tu n'as jamais bossé dans une entreprise de BTP, je t'assure que les murs, c'est voilà, c'est pas ce que tu crois.
Donc soit ça, soit la solution sérieuse entre guillemets où il faut laisser les portes ouvertes. Mais alors pour laisser les portes ouvertes, soit vous mettez un meuble, soit vous déplacez un collègue devant. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec votre câble qui parcourt tout le truc et trois collègues postés devant postés en pion devant les portes automatiques pour que vous puissiez faire passer le modem. Et c'est assez drôle. Et
tu te rends compte un peu de la productivité générale des trois collègues qui sont juste là pour tenir les portes ouvertes.
La productivité du gars, parce qu'il faut savoir qu'il est payé, donc votre personnage, il est payé globalement à genre brancher un modem ou à trier les caisses par couleur.
Donc, c'est un stagiaire,
voilà, c'est ce que j'allais dire.
C'est un stagiaire et il grimpe les étages. Et
oui, ou c'est un ingénieur réseau. Hein. Je suis désolé, hein, c'est exactement ce qu'on fait. Hein.
C'est pas la même chose.
Attendez, moi je suis payé pour brancher des câbles et trier des paquets par couleur. Je vois pas la différence.
Mais ce qui est. en tout cas, ce qui est assez fort, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, les solutions sérieuses deviennent de plus en plus compliquées à maintenir. C'est-à-dire que après, tu vas travailler avec par exemple un jet d'eau, donc un tuyau d'arrosage, et donc là, pour ne rien reverser, il faut faire très gaffe. Il y a un moment où tu dois nettoyer tout le slime qui est au sol. Et sauf que t'as une. Tu sais, les trucs pour nettoyer là, qui tournent sur elles-mêmes en les savonneuses là.
Les trucs,
ça frotte le sol.
Je comprends pas.
Voilà. Exactement. Mais donc, du coup, genre, donc, quand tu prends ça, au début tout va bien, tu marches. Et puis au fur et à mesure, tu te laisses emporter par la vitesse. Et donc, tu te retrouves à faire du slalom entre tes collègues et entre les différents instruments d'analyse de fiole. Et donc là, bon, voilà, bonne chance pour. Autant au début, tu devais trimballer une imprimante, bon, tu passes à travers les portes, tu fais un peu gaffe, t'essayes de pas trop tuer tes collègues. Autant après, quand t'as un tuyau d'arrosage dans les mains, ou tu te laisses emporter par la savonneuse, bah c'est plus compliqué, quoi.
Alors attends, je...
Ouais, ou pire.
Enfin, je voudrais quand même savoir un petit truc, là. Juste, voilà. C'est une vraie entreprise, on est d'accord, c'est inspiré de faits réels. Parce que
c'est...
Alors,
c'est la Cogip.
C'est la Cogip.
C'est la Cogip. Non, mais alors voilà, alors je vais vous dire, hein, il y a différents. Donc l'étage 0, la réception, c'est les trucs. Après, il y a gestion, logistique, espace bien-être, recherche. Donc c'est marketing, tu vois. Donc c'est vraiment juste, c'est des trucs de start-up nation. Il y a un espace bien-être, il y a un billard, machin. À un moment donné, t'as un jardin zen. Et faut foutre les énormes boules. Faut les mettre au bon endroit.
Attendez, excusez-moi, j'ai pas encore compris. Faut mettre tes énormes boules à quel endroit?
Faut mettre des rochers. Alors, c'est des rochers. Attention, non,
attendez.
Il y a des enfants qui nous écoutent.
Des enfants qui nous. Non, le stream est 18+, monsieur.
C'est vrai que le stream est 18+.
T'as pas entendu Peggy 18 au début? Attends, t'as vu Peggy 18?
Putain, faut que je fasse ça comme jingle aussi. Voilà, ça c'est bien ça.
Et ce qui est cool, c'est que voilà, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins simples, c'est-à-dire voilà, apporter une imprimante, bon ça c'est drôle, parce que soit tu peux faire traverser l'imprimante, tu peux faire traverser l'étage à l'imprimante, mais au fur et à mesure, t'as notamment, je me rappelle un, dans l'espace bien-être, où tu dois amener tout le monde devant le vidéoprojecteur, et donc pour ça, t'as 4 personnes, et les 4 personnes, faut les amener de manière différente, si tu veux le faire sérieusement. C'est-à-dire, il y en a une, il faut, elle a peur du feu, donc faut l'effrayer avec le feu jusqu'à ce qu'elle arrive devant le projecteur.
D'accord.
Je dis n'importe quoi. Hein,
c'est encore une fois spoiler, parfaitement cohérent, hein, je veux dire, par rapport à l'univers de l'entreprise au quotidien.
Oui, voilà. Il y en a c'est un, exactement comme ça que ça se passe. Brandis une fiche de licenciement, un préavis de licenciement devant la tête, et tu fais tiens bâtard, tu veux être licencié. Et bon là, évidemment.
Ça aussi, oui, ça c'est très réaliste comme situation.
Non mais c'est pour ça, et donc, gameplay émergent, partage avec les amis, et en plus c'est que, je crois que moi, je l'ai payé 13 balles, c'est 15 balles hors promotion, franchement, moi je le conseille, beaucoup, surtout qu'en coop c'est incroyable, vraiment la coop est trop drôle.
Ah j'ai pas encore essayé, ouais.
Par contre ça lag en mode portable.
Alors monsieur Méduse, qui voulait rajouter quelque chose.
Ouais, non, j'ai effectivement le mode coop, j'ai essayé un petit peu à la maison pendant quelques niveaux, et c'est assez drôle parce qu'en fait, autant tu en solo, t'es super vite orienté KO, autant quand t'es en coop, ben le propre de coopérer, c'est d'essayer un peu de s'organiser, quoi, tu vois. En fait, ça marche pas.
C'est pas parce que généralement, quand tu veux faire des trucs pression en coop dans un jeu vidéo, tu casses plus de trucs. Hein.
Ouais. Et par contre, le truc super bien géré, c'est que tu peux être sans souci en haut à gauche de niveau et ton partenaire de coop tout à fait en bas à droite. Et l'écran se split de manière diagonale et la diagonale, enfin, tu vois, s'oriente et suit selon les déplacements des uns des autres. Et donc ça, c'est super naturel, super bien foutu.
Après,
et effectivement, c'est assez drôle.
Je suis sûr que ça finit quand même avec un mec qui va choper un Fenwick à la grue pour aller choper quelqu'un qui voulait pas aller en réunion.
Ouais, mais ça, c'est...
Je vous rappelle un adage en entreprise qui est extrêmement important, hein, just because you can doesn't mean you should.
Ouais.
Voilà, ce n'est pas parce que tu peux le faire qu'il faut le faire.
Mais voilà, mais la coop, ça se... Moi, enfin, en tout cas, dans mon cas... Voilà, ça s'est terminé en quelqu'un qui essaye de faire le truc sérieusement et quelqu'un de sexe masculin que je ne citerai pas qui balance l'imprimante à travers la pièce sur l'autre personne, surprise par l'arrivée spontanée d'une imprimante dans le champ de vision. Et c'est vraiment assez drôle.
D'ailleurs, la coop, c'est en ligne ou local?
C'est local.
Seulement local, ouais.
Et c'est. Alors, ce qui est assez surprenant dans le jeu, c'est qu'en fait, je pensais qu'à un moment, j'allais me lasser un peu, et que la mécanique reviendrait, etc. Mais en fait, chaque niveau est complètement différent du précédent et complètement original. Ce qui fait qu'on s'ennuie jamais et le jeu se plie en 6 à 10 heures, on va dire. Et c'est vraiment la bonne durée de vie et le bon contenu, je trouve.
Oui, moi j'avoue que je l'ai pas fini. J'ai eu un petit peu, je l'ai lâché. J'ai fait quasiment tout le jeu d'une traite. Enfin, je suis au 6e sur 8. Le 6e étage sur 8. Et je l'ai quasiment fait d'une traite. Et j'avoue que je l'ai lâché parce qu'à un moment donné, faut se nourrir.
Les considérations de casu.
Faut vivre. Et j'ai pas retouché le truc. Ouais, c'est que si on s'y replonge pas, enfin, je trouve que effectivement, il y a un peu ce truc répétitif et effectivement, le jeu est assez court, ce qui fait qu'on n'est pas complètement lassé, mais j'avoue que moi je l'ai quand même un peu eu.
Tu t'es un peu écœuré, peut-être.
Ouais, il y a un peu de ça.
Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, je viens de faire mon premier niveau sans rien casser. J'ai eu A en temps, A+ en pognon et A+ en objet cassé, ça m'a donné A+ au final. Donc je crois qu'il faut aller vite en plus.
Okay.
Oh, putain, le truc doit être infernal.
A+, et ça donne A+.
Donc, voilà. Quelle angoisse.
Doit être chaud.
Parce que je comprends bien faire tout à l'arrache pour aller vite. C'est à peu près la méthode standard en entreprise. Hein. Je veux dire. Excusez-moi, que le premier qui n'a pas rendu un projet totalement à l'arrache me jette la première pierre.
C'est la startup nation.
Exactement. Je rappelle que la méthode agile ou la méthode macro-agile, hein, puisque certains ont voulu faire un petit peu au-dessus, c'est quand même l'antithèse de la qualité. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne.
On veut qu'on
faire de la merde, mais faire des trucs.
Faire de la merde, mais vite. Et ça, c'est important.
Mais je note quand même un truc. Ce jeu qui parle quand même de bosser au travail reprend très bien les concepts de performance, vu que tu dois faire ton travail vite et bien pour avoir la meilleure note.
Et t'es pas payé.
Donc ils ont sacrifié le budget. C'est vite et bien et pas cher. Et ils ont réussi à avoir les trois triangles. Hein.
Ouais, alors, bon, enfin, vite fait quand même.
Ouais.
Bon, par contre, quand même le champ, peut-être,
ce qui pourra peut-être faire le lien avec le prochain, avec le sujet suivant, c'est que il y a de la collectionnite dans le jeu. C'est-à-dire que
on parle pas de collectionnite dans le jeu, on parle de collectionnite de jeu, monsieur. Donc je suis désolé, c'est perdu.
Oui,
mais il dormait la semaine dernière, quoi.
Écoutez,
c'est un carton jaune.
Non, mais c'est pas ça. C'est que il y a des petits vêtements à choper.
Alors, Galaxy, à la fin de l'émission, je vais remettre une rose à tous ceux qui restent. Tu n'en auras pas. Je te préviens.
Ah bah, c'est parce que c'est Ségolène Royal, se présente pas. Hein.
je vais pleurer là, mortel. Ce que tu me fais en direct, c'est terrible.
Donc en fait, non, attends, ça veut dire que. Alors, est-ce que ça peut faire partie des critères de réussite ou est-ce que c'est vraiment un challenge à part? C'est si t'as envie d'aller.
Non, c'est un challenge à part.
D'accord.
Tu peux passer complètement à côté. Maintenant, c'est compliqué parce qu'il y en a certains qui sont vraiment posés sur un bureau, donc faut le vouloir.
Excuse-moi, ça arrive en vrai.
Tu peux juste t'en foutre, hein. Ça a pas d'intérêt en soi, c'est vraiment purement cosmétique. Mais c'est de la collectionnite, ça c'est sûr. Et c'est cool. Enfin, ça permet de refaire les niveaux. Et ça apporte du puzzle supplémentaire. Enfin, du puzzle dans le puzzle, en fait.
Ouais, c'est un petit challenge supplémentaire, en fait.
Est-ce qu'ils sont parfois compliqués à choper, ou c'est parce que...
Ouais, il y en a qui sont pas évidents. Percher en hauteur et tout, faut réussir à trouver le bon machin à envoyer dans l'élément sur lequel il est perché. Et à ce sujet, d'ailleurs, la physique est plutôt bien gérée, pas parfaite, parce que t'as parfois des petits soucis de collision, mais grosso modo... Il y a rien de scandaleux et c'est vraiment super bien foutu, intuitif.
Est-ce que c'est rapproché de jeux comme Human Fall Flat ou des trucs comme ça? C'est des jeux, des clumsy simulators,
Non, parce que Human Fall Flat, c'est quand même un petit peu exagéré comme comportement. Et là, finalement, voilà, quand tu catapultes une photocopieuse, tu sens le poids de la photocopieuse dans le mur, quoi, tu vois.
D'accord.
La vraie différence, c'est que c'est fun par rapport à Human Fall Flat, quoi.
Alors, est-ce que c'est fun par rapport à la vraie vie? C'est-à-dire, est-ce que vous avez essayé de catapulter une photocopieuse pour voir si ça marche?
On a hâte que tout ce bordel se finisse pour aller essayer.
Bah, moi, je pourrais peut-être tester parce qu'il n'y a pas grand monde au bureau. Je pense que ça pourrait passer discrètement.
Alors, à travers le mur, oui.
On va surveiller les JT.
Je pourrais tester parce que mon ancien bureau est en train d'être abandonné, du coup, je pense que ça va déranger personne.
Ah bah voilà, c'est le moment idéal de faire des... Moi, en général, c'est quand il y a du monde au bureau que je fais les courses de chaises, donc...
Mais c'est ça qu'il faut essayer chez OVH, en fait.
Tu crois qu'en fait, le technicien qui était de garde, il a voulu jouer à Good Job?
Ouais.
Oui. Je crois qu'il s'est dit, je vais mettre le feu et je vais faire comme dans Good Job avec la lance incendie, on va voir ce qui va se passer.
Ça s'est drôlement bien passé. Non, le dojo n'assume pas cette blague. Hein.
Ça doit être extrêmement compliqué de faire un S, parce que j'ai fait le premier niveau en 57 secondes et j'ai eu un A.
Oh putain.
Alors que
moi j'ai pas de 3.
Tout le monde était moins que 57 secondes, c'est très peu. Sans rien toucher, j'ai eu A, A plus, A plus.
Ah ouais. C'est ce que j'ai eu, mais j'ai mis un peu plus longtemps que toi, parce que je dois faire plus attention. J'ai mis un peu plus de 2 minutes.
Ça, ce serait peut-être le tout petit regret que j'ai, même quand on en discutait à côté, il y a certaines règles qui sont pas claires. Arrivé au premier niveau, j'ai vu les trucs jaunes qui brillent, mon premier réflexe a été de les défoncer, quoi. Et a priori, il faut pas, parce que c'est les objets chers.
Ouais, j'ai mis genre 4 étages avant de comprendre... Mais après, comme j'avais de toute façon décidé d'en avoir rien à foutre, j'ai continué. Et franchement, c'était vraiment bien plus drôle.
Ah, mais c'est jouissif, hein, tu vois.
Ah oui.
Le
oui.
vieux Vasming machin qui traîne en mode exposé, c'est le trésor de la boîte. Si tu balances un bureau dedans, ça fait du bien.
Bref, ouais, c'est très cathartique comme jeu. Et mais par contre, voilà, deux bémols, c'est-à-dire que c'est pas. Alors, c'est un peu répétitif déjà, même si, oui, effectivement, les mécaniques se renouvellent bien. Deuxièmement, moi je trouve que, en termes de performance, le jeu en portable est passable. Genre, c'est pas du 30 FPS, tu sens que le jeu il galère un peu, il y a des temps de chargement avant les niveaux, donc. J'avoue que c'est un petit moins, c'est pas dérangeant pour jouer, hein. C'est juste que si c'était fluide, ce serait mieux.
Bah après, tu détruis la moitié d'un étage de bureau en balançant des photocopieuses à travers les murs, enfin je veux dire, même dans la vraie vie, ce serait pas fluide. Hein.
Oui, mais même en général, enfin je veux dire, même, ouais, même ouais. Quand on se balade en dehors, il n'y a pas de ralentissement. Alors, ça par contre, quand tu détruis la moitié...
Excusez-moi, je me suis baladé hier, je trouve que le ray tracing rend vraiment pas terrible. Hein. Enfin, je le dis comme ça, mais...
Alors, bien. Pas de ralentissement, on voit que tu n'as pas bossé au service public.
Non mais le jeu a pas de ralentissement quand tu balances. Tu peux tout défoncer, il y aura aucun souci, mais de base, il tourne pas super.
Ouais, mais voilà, je vais pas spoiler, mais il y a un niveau où tu peux vraiment mettre la performance de la console à genoux, mais genre avoir des freezes de plusieurs secondes. Et c'est une fois que tu découvres ce qu'il y a moyen de faire avec un certain upgrade, et que tu vas à fond en fait. Mais Tu le découvriras.
Est-ce que c'est un Y?
Ça, on vous laisse, à toi et ta femme.
Non, tu n'es pas un Y. Mais tu peux quand même y aller à fond.
Non, bon bah voilà, c'était good job.
C'était good job. Je vous propose de faire une seconde pause musicale qui va encore concerner la bande originale de Good Job qui est toujours composée par Antonio Teoli. Et cette fois-ci, c'est donc l'étage de recherche, le 4C. Donc c'est 4C, recherche.
Est-ce qu'il est drôle, cet étage ?
Je sais pas si l'étage est drôle, mais en tout cas, la musique est sympa. Et voilà, donc c'est toujours du jazz-ascenseur, hein, c'est-à-dire une espèce de jazz d'ascenseur qui est pas foufou. L'objectif, c'est d'accompagner l'action, on est bien d'accord. Mais ça fait partie dans l'OST des petites choses qui pop un petit peu plus et qui sont un petit peu plus sympas. On se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes pour parler de collectionnites et de comment ne pas se faire pigeonner par Runar. Parce que c'est exactement le sujet du jour. Voilà, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Et nous allons donc parler de collectionnites. C'est la deuxième partie de notre émission, de notre sujet consacré à la collectionnite, où on va vous expliquer par où commencer, comment commencer, est-ce qu'il y a des erreurs de débutants à éviter. Galaxies, la prochaine fois, je te le fais bouffer ton téléphone.
Quoi ? Non mais au secours, putain.
Mais coupe ton micro quand tu parles pas.
Voilà, oui, c'est plus simple. Donc, dans l'absolu, comment ne pas se faire pigeonner par Runar ? Parce que quand on débute dans ce genre de milieu, figurez-vous que des pièges, il y en a quand même un petit paquet. Voilà, il y a des choses qui... Il y a des trucs qui apparaissent comme des bons plans, puis en fait, ça n'en est pas. Il y a tout un tas de choses qui vaut mieux éviter, et il y a des bons plans qui peuvent être sympas. Il y a des choses qui sont, à dire, plus accessibles que d'autres, plus faciles à récupérer que d'autres, moins chères que d'autres. Enfin voilà, il y a tout un tas d'astuces qui permettent de bien démarrer ce genre de choses-là. Et donc, pour bien démarrer, quand on collectionne des jeux, faut aussi avoir les consoles pour y jouer. C'est mieux. Je dis ça comme ça, mais c'est mieux. Généralement, moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de privilégier les modèles les plus fiables, les plus faciles à brancher chez vous. Vérifier que vous avez bien tout le matériel qu'il faut, que ça marche et que ça vous donne une qualité d'image satisfaisante. Sinon, c'est pas forcément la peine de continuer parce que ça va juste être décevant. Et pour de vrai. Hein, je veux dire, Il y a rien de pire que d'aller brancher une console qui a une trentaine d'années sur sa télé et de se rendre compte qu'en fait l'image est dégueulasse, alors soit à cause de la télé, soit que la console elle-même a pas un rendu de fou, soit que les câbles sont pourris. Enfin, voilà, avoir une belle image sur une vieille console, c'est quelque chose qui demande un minimum d'investissement financier et éventuellement technique, c'est-à-dire de s'y intéresser un petit peu. Si vous voulez, le dojo a tout un tas de dossiers sur des upscalers, notamment l'open source scan converter. On a un dossier très complet, le FrameMeister, sur lequel on a un dossier très complet, le fonctionnement des vieilles consoles, sur lequel on a un dossier très complet. Voilà, donc tout ça, c'est à prendre en compte, malheureusement. C'est-à-dire que, voilà, après, il y a des consoles sur lesquelles c'est plus facile que d'autres. Sur GameCube, aujourd'hui, on peut avoir donc les adaptateurs HDMI, ça coûte, Zergy, une centaine d'euros, c'est ça? À peu près?
De quoi parlez-vous?
Les adaptateurs HDMI pour GameCube.
150 balles.
150?
Ouais, combien?
Pour les plus chers, il y en a des moins chers, non?
Le GCHDM K2, il est à 150 balles, et le Carbide de Insurrection Industries, il est moins cher, il doit être à 80, je crois.
Voilà, donc 80
ah,
balles.
Par contre, attention, le Carbide, il transmet pas le son. Hein.
Ah, faut avoir un petit jack à côté, c'est ça?
Ouais, faut que tu te serves du câble standard pour le son.
Ah, c'est un peu emmerdant. Ok.
Donc plutôt une console rétro de centre droit, quoi.
Bon, voilà, mais c'est de plus en plus facile d'avoir une qualité d'image correcte. Et voilà, après, il faut parfois y mettre un peu le prix. Donc, ce qui se branche assez facilement en HDMI, on va dire la Wii, grâce à la Wii U. Parce qu'on peut jouer à tous les jeux Wii sur Wii U en HDMI sans s'emmerder. Et avec un upscale très correct. Je tiens à le préciser.
Et les Wii U ne sont pas très chers, donc allez-y.
Et les Wii U sont pour l'instant pas très chers. Ça finira peut-être par venir, mais...
Quoi, dans 10 ans, ça va flamber, c'est ce qu'on disait,
c'est ça ? 10 ou 15 ans, généralement, c'est ça. C'est deux générations, donc c'est 10 ou 15 ans. Donc ça va finir par venir, mais voilà, pour jouer à la Wii U, jouer à la Wii U, c'est en HDMI déjà. Jouer à la Wii, moi, je vous conseille d'y jouer sur Wii U, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple.
Non, la Wii, c'était en HDMI, mais il te fallait un câble à part. Hein. Il était alors, pas celui de la boîte. Quoi.
Non, t'as pas d'HDMI
non,
du
pas,
tout
non,
sur
non.
Wii.
C'est... Oui, c'est un...
T'as un câble component.
Merci, component.
Mais comme c'est une connexion analogique, en fait, c'est de moins en moins obligatoire sur les télés, donc il y a moyen que ça finisse par ne plus exister du tout.
Ouais, ouais.
Et la Wii Mini, non, elle avait pas une...
Alors la Wii Mini, non, c'est bien, elle faisait que du composite. T'avais même d'accord. Pas possibilité de brancher du RGB dessus. Donc la GameCube, on l'a dit, il y a un adaptateur HDMI qui coûte un certain prix. Donc 150 euros pour la version Deluxe, toute option, avec les rétroviseurs chromés, dégivrants, le café, la vaisselle, le ménage, la petite pipe, voilà. Dès qu'on remonte un tout petit peu plus loin, alors pour la NES, il y a un mode HDMI, mais qui coûte très très cher.
Et qui est plus produit.
Et qui n'est plus produit.
C'est ça le problème, c'est que les mecs, ils font les... C'est pas open source, en fait, leur design. Du coup, dès qu'ils arrêtent de le produire, bah tu l'as dans le cul.
Ouais, c'est moche, ça.
C'est assez moche. La Super NES, il n'y a jamais eu de mode HDMI dessus, de mémoire.
C'est dommage.
Et c'est vraiment dommage. La N64, il y a un mode HDMI...
Il y en a deux.
Ah oui, il y en a deux. Oui, il y en a deux. On en avait parlé d'ailleurs il y a 3-4 émissions, je crois.
Ah, comme Ponton.
Et il y a surtout. Alors, il y a un petit truc qui est fait justement par Insurrection Industry, me semble-t-il.
Le Carbide de Insurrection Industry, qui est le truc pour la GameCube en HDMI, il est à 70$.
D'accord. Et donc, il y a une version normalement N64 qui va taper dans le signal, me semble-t-il, S-Video, donc peut-être que sur les consoles américaines.
C'est pas Carbide qui l'a fait, mais effectivement, ouais, c'est...
Voilà, donc il y a des,
c'est
y a
un
des choses...
peu mieux.
Il y a des choses comme ça qui existent.
Alors moi, j'ai une question, du coup. Donc, à chaque fois, on parle évidemment de trucs non officiels. Hein. C'est pas produit par Nintendo.
Voilà, c'est de toute façon des trucs non officiels.
Je pense que l'N64, Nintendo, bon, voilà, quoi. Ils ont tourné la page.
Alors, et c'est de toute façon non officiel.
Ouais, bah ça c'était à peu près sûr. Et du coup, pour la personne qui s'intéresse pas du tout à ça, que je suis et qui n'a jamais vraiment regardé, c'est quoi du coup ces modes? C'est on te modifie ta console? C'est un truc que tu vas rajouter à l'arrière?
Alors, ça dépend. Alors, t'as vraiment un peu de tout. Hein. Tu vois, pour la GameCube, t'as des modes. Si tu veux mettre du HDMI sur ta GameCube, t'as soit le plug que tu mets à l'arrière.
Ouais.
Le Carbide ou le GCHDM K2, c'est ça. Si tu as un truc, tu plugs ça à l'arrière, faut que tu aies la prise numérique qu'il y avait sur les premières GameCube et tu branches ton câble HDMI par-dessus. Ou sinon, tu as le GC Dual, je crois, que ça existe, où là, c'est vraiment un truc à souder à l'intérieur. Et par contre, là, le GC Dual est compatible même avec les versions de GameCube qui n'ont plus le port numérique.
Tout à fait. Alors, après, les versions qui n'ont plus le port numérique, c'était les dernières versions vendues. Il n'a pas dû s'en vendre beaucoup. Enfin, ça a quand même relativement peu d'intérêt, mais... Voilà, donc en tout cas, sur les consoles, je vous invite à aller sur le dojo, on a fait beaucoup de dossiers sur le sujet. Alors malheureusement pas sur tous les upscalers existants, parce que c'est quand même un budget de tous les tester. Mais il y en a quand même pas mal.
Ouais, t'avais pas juste fait un truc sur le Framemaster, non ?
Non, il y a un truc sur le Framemaster, il y a un truc qui s'appelle SLG Inobox qui est encore vendu. Il y a un truc sur le G... le SLG Inobox contient un machin qui s'appelle le GBS 8002, sur lequel il y a encore des mods qui sont faits et qui coûtent pas trop cher. Il y a un truc sur l'Open Source Scan Converter. Voilà, si vous voulez donc un upscaler, c'est-à-dire vraiment brancher une vieille console sur une télé moderne, il y a de la doc, il y a un peu d'investissement financier à faire. Ça peut coûter pas très très cher, ça peut coûter beaucoup plus cher. Ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin, malheureusement. Enfin, faut se renseigner un peu avant, c'est pas gratuit.
Alors, oui, pour la Super NES, il y a une voie, hein, ça s'appelle la Super NT, mais putain, c'est cher maintenant.
Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. Alors, un des bons plans, ça peut être bon plan pour pas être emmerdé, enfin, ça coûte cher, ça on va être clair, mais derrière, le rapport emmerdement-fonctionnalité, il est quand même à toute épreuve. Dans le sens où t'es pas emmerdé et t'as toutes les fonctionnalités, c'est effectivement les consoles clones un petit peu haut de gamme. Je pense à la Retro AVS qui joue à tous les jeux NES, que ce soit américain, japonais, européen, et en HDMI, et avec une qualité d'émulation super, puisque c'est pas vraiment un émulateur, c'est un émulateur matériel, donc c'est de très 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 bonne qualité. Ça coûte un peu cher. Voilà, faut être conscient de ça. Il y a le Super NT, alors Sergi, t'en as un, nous on l'avait essayé ensemble il y a 2 ans.
Oui, tout à fait.
C'est vrai que ça marche super bien. Mais vraiment super bien.
Et alors, autre solution, tu vois, moi, par exemple, ma NES, j'ai 5 jeux qui se battent en duel, du coup je me suis pas fêché, hein, j'ai pris une NES Mini à la place.
Alors, ça peut faire partie des solutions. C'est pas tout à fait la même chose, puisque là, t'as une console tout en un, maintenant, voilà, si c'est juste le plaisir de jouer à la NES, ça peut suffire. On sort un petit peu du cadre de la collection, mais ça peut suffire.
Oui, voilà, puis bon, si le but c'est de brancher ta console HDMI, tu vois, moi la NES, c'est pas ma console de cœur, du coup, bon, bah, une NES Mini, ça fait le taf, et puis voilà.
Voilà, moi j'ai une NES modifiée en RGB, ça m'a coûté cher à faire, ça m'a coûté du temps.
Ça t'a coûté une NES.
Et ça m'a coûté une NES, parce que j'en ai réussi à en bousiller une, ce qui était quand même moche. Mais c'est pas évident. Donc voilà, donc pour les consoles elles-mêmes, il y a déjà tout un univers à explorer. Moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est aller sur le dojo, regarder aujourd'hui, regarder pour quelle console vous voulez collectionner. Pour cette console-là, quelle sortie vidéo est disponible. Il y a des solutions aujourd'hui pour tout et à tous les prix. Il y a des trucs de merde à pas cher. Il y a des trucs un petit peu plus milieu de gamme qui sont pas extraordinaires en termes de qualité, mais qui fonctionneront raisonnablement bien.
Et évitez les consoles clones de Hyperkin, hein, c'est de la merde.
Exactement, c'est de la merde. Et vous avez une qualité d'image dégueulasse, il y a de la latence, enfin c'est pas agréable du tout. Et je dis vraiment pas ça parce que... Enfin, voilà. Jouer dans des conditions originales, c'est très compliqué, mais jouer dans de bonnes conditions, ça peut se faire à un prix raisonnable. Je pense notamment à des choses comme le RetroTink, sur lequel on n'a pas fait de sujet parce que j'en ai pas acheté, parce que ça coûte cher.
Oui, enfin, ils sont partis en 5 minutes. Hein.
Ils sont partis en 5 minutes. Donc le RetroTink, c'est un petit upscaler qui coûte pas cher en l'occurrence, je crois que c'est une cinquantaine d'euros, donc c'est pas énorme. Par rapport à un OSSI, en moyenne, c'est 120 euros, un Framemaster, c'est plus dans les 300 euros, donc tu commences à avoir des budgets un peu sympas. Un RetroTink, ça coûte pas très cher, et ça prend du composite, donc de la NES, ça prend du component, donc de la Wii, en ce qui nous concerne en Europe. Et je crois qu'il y a une version qui prend du RGB.
Oui, il y a une prise Péritel dessus.
C'est ça. Donc, pour un prix très raisonnable, hein, une cinquantaine d'euros, on a une qualité d'image qui est correcte. C'est pas extraordinaire, mais c'est très correct. Et ça peut permettre de jouer déjà à beaucoup de choses dans de bonnes conditions, et ça fait quand même plaisir.
Voilà. Et d'ailleurs, juste pour faire la transition avec le sujet d'après, mais est-ce que... parce qu'on va parler de collections de jeux, mais est-ce qu'il y a des collections, des gens qui font des collections de consoles? Parce qu'avec tous les modèles
oui.
Couleurs, collector et compagnie...
Exactement, il y en a. Il y a de tout.
J'en connais un.
On peut se faire plaisir et acheter de tout. Je connais quelqu'un qui a, par exemple, toutes les couleurs, enfin, qui a toutes les manettes de N64, c'est-à-dire toutes les couleurs de manettes de N64 avec les boîtes scellées.
Wow.
C'est un petit plaisir perso qui s'est fait. Alors, il n'y a pas beaucoup de couleurs, je crois qu'il y en a 6, puisque t'as genre gris, noir, et après toutes les couleurs des boutons, de genre rouge, bleu, vert, jaune.
Ah, tu dois avoir la variante Pikachu, N64 Pikachu aussi.
Oui, voilà, mais après, voilà, il y a des gens qui collectionnent toutes les variantes de consoles. Sachant que.
Oui, ça, j'ai jamais trop compris l'intérêt, mais bon. Bref.
Écoute, les gens se font plaisir.
Moi, je peux te prendre les plans.
Si vous voulez commencer, donc les consoles clones, ça peut être un très bon plan. Moi, je dis, si vous devez vous concentrer, prenez plutôt les consoles les plus fiables, les plus faciles à brancher, là où il y a. Soit la meilleure qualité d'image, soit le plus simple.
Ah, je trouve pas une idée.
Non mais voilà, mais c'est con, hein, mais sur une Mega Drive, je crois que la Mega Drive 1 a c'est plus facile à brancher aujourd'hui qu'une Mega Drive 2. Je peux peut-être dire une connerie, mais voilà, si vous avez une console plus facile à brancher, faut pas hésiter. Plus fiable, faut pas hésiter. Voilà, je sais que sur PlayStation par exemple, les toutes premières qui étaient sorties ont vraiment des disques optiques très très peu fiables et ont tendance à chauffer.
Ah non, mais la mienne est morte comme ça. Il fallait que je la mette à l'envers à la fin pour que la partie soit calée.
Alors que si t'achètes une PS1, donc tu sais le modèle miniature là, avec les bords arrondis, celui-là il est increvable. Mm. Voilà, pareil, il me semble que pour les PS3 je ne suis pas sûr, mais il me semble que les PS2, les modèles slim sont bien plus, tendance à casser que les modèles fat.
Les lecteurs optiques aussi, les premières PS2 elles avaient aussi le lecteur optique qui pétait au bout d'un moment. Donc,
oui, puis même t'as le tiroir en fait. C'est con, mais t'as un élément mécanique avec le tiroir, bah c'est moins fiable.
Bah, généralement, les premiers modèles de consoles Sony, c'est pas top top. Alors, en plus, je crois que les premières versions des PS2, alors, on prend la première version, mais en plus, il y a des révisions de consoles en cours de route.
Chez Sony, les révisions, c'est tous les 15 jours. Hein.
Et sur la PS2, certains des vraiment tout premiers modèles mis en vente avaient des trucs qui fait que certains jeux ne fonctionnaient pas avec. Je crois que c'était Star Ocean 3 qui ne fonctionne pas sur des premiers modèles de PS2.
C'est pas parce que c'était un jeu CD et pas DVD ou une connerie comme ça?
Non, je crois que c'est une histoire de... Ah, peut-être, remarque, faudrait que je retrouve. Mais en gros, ils ont dû ressortir une version au Japon, parce que là, je parle d'un problème au Japon, pour que justement elle soit compatible avec toutes les versions des consoles PS2. Enfin, c'était n'importe quoi.
Ah, tu t'achètes une console, en général, c'est pour pas avoir ce genre de problème.
Voilà. J'essaierai de retrouver l'info et puis on en reparlera en off.
Donc la voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est au plus simple à brancher pour pouvoir y jouer, si vous avez l'intention d'y jouer, au plus fiable. Et ça, c'est valable aussi pour les accessoires. C'est-à-dire qu'il y a des accessoires qui sont quand même connus pour avoir une fiabilité tout à fait discutable.
On va en chier avec les Joy-Con dans quelques années.
Je pense que c'est le cas, mais je pense aussi aux manettes de N64. Puisque les manettes de N64, vous avez les sticks qui ont une certaine tendance à s'user. Et ça, c'est quand même assez pénible. Donc voilà, dans ce cas-là, il y a tout un marché, enfin, il y a tout un, comment dire, tout un secteur d'accessoires neufs pour des consoles anciennes qui existent. Ça coûte pas si cher que ça.
Du N64 chez 8BitDo ?
Alors, ils font du N64 chez 8BitDo, il y en a
une. Non, ils en avaient fait une en collaboration avec Hyperkin, mais je crois qu'elle est plus en vente.
C'est possible, il y en a une autre qui reprend la manette Ori, celle qui, tu sais, qui a pas trois branches, mais seulement deux.
Ouais, mais le stick est pas bien centré. Enfin, si tu veux, au niveau de. Le stick, à ce qui paraît, il est pas. Je l'ai, hein, elle marche plutôt pas mal, mais bon. Il paraît qu'elle a un petit défaut de stick. Bref.
Voilà.
Là, sinon, il y a la Retro Fighter pour la N64.
Tout à fait.
Qui marche bien.
Et la Retro Fighter, c'est des mecs qui avaient commencé sur Kickstarter et en fait ils ont fait la N64 je crois pour démarrer.
Ouais, c'est ça, ouais, moi je l'avais Kickstarté ce truc là.
Et en fait derrière ils ont fait la Dreamcast et ils ont fait la NES et ils ont fait 2-3 trucs et c'est toujours le même modèle de manette en fait donc. Mais c'est plutôt pas mal d'ailleurs.
Bref, en fait la conclusion c'est si vous voulez collectionner, vous emmerdez pas à prendre obligatoirement les trucs originaux parce que bon, entre un truc original pas fiable et un truc pas original mais qui marche.
Pérenne.
Voilà, enfin pour les consoles c'est en général compliqué de pas faire original même si les consoles clones, encore une fois, il y a des bons plans. Faut y mettre un peu le prix. Voilà, mais surtout, ne vous lancez pas dans « je vais collectionner sur la 3DO, acheter une 3DO et vous rendre compte que l'image est dégueulasse, qu'il y a 10 secondes de latence avec votre télé, ça va être désagréable et vous allez juste vous dégoûter du truc. » Honnêtement, c'est pas la peine.
Après, effectivement, sur certaines consoles, t'es obligé de passer par des astuces, genre les Dreamcast qui ont tous lecteurs GD-ROM en train de crever, tu vas peut-être être obligé de mettre un lecteur ODE à la place.
Ça, après, oui. Ça, de toute façon, il y a des trucs sur lesquels, malheureusement, tout ça a une espérance de vie relativement courte. Je sais que les Saturnes ont tendance à crever aussi. Moins vite, apparemment, mais...
Oui, mais elles sont aussi... maintenant, il y a aussi des ODE pour Saturne, je crois.
Tout à fait. Enfin bref, donc il y a... Donc les solutions, il y en a. La console, c'est quand même important. Ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps. Pas forcément d'y mettre un prix énorme, mais d'y passer un tout petit peu de temps pour se renseigner sur savoir comment on va faire. Voilà. Alors, où est-ce que vous allez acheter toutes ces merveilleuses consoles et tous ces merveilleux jeux ?
Sur eBay.
En République.
Alors, il n'y a pas une réponse universelle. Alors, en ce moment, en temps de Covid et de pandémie, on est tous obligés de rester chez nous, donc effectivement...
Ouais, Kiabara, c'est compliqué, du coup.
Kiabara, c'est un peu compliqué.
Oui, alors, les jeux vidéo sont des boutiques essentielles, je le rappelle.
Oui.
On a besoin de respirer l'odeur des jeux neufs, monsieur.
Et des jeux d'occasion.
Et des goûts des cartouches Switch.
Putain, vous vous rappelez le disque de Gran Turismo qui sentait l'herbe quand on le frottait ?
What ?
Non, c'était Pardon ? FIFA. C'était FIFA 2000.
Ah oui, non, Gran Turismo, il sentait le pneu cramé.
Putain, mais vous êtes sérieux ?
C'est sérieux ?
Oui.
Putain, je savais même pas. Bon, bref. Donc, online, évidemment, alors il y a plein d'applications qui permettent de faire ça. Enfin, il y a plein d'applications et de sites. Vous connaissez tous Le Bon Coin ?
Non.
Méfiez-vous. Alors, sur Le Bon Coin, pendant un long moment, on pouvait vite se faire arnaquer. On se méfie. Comme tout ce qui est en ligne.
On y va en physique si on peut.
On y va en personne si on peut, surtout sur Le Bon Coin. Ou alors on passe par le. Alors, je rappelle que maintenant Le Bon Coin s'impose comme intermédiaire de paiement. Donc on peut payer Le Bon Coin qui va payer le vendeur. Ça peut être bon plan pour pas se faire carotte, mais ça n'empêche pas que si le mec vous a vendu un truc et que c'est pas conforme, bah, basiquement vous l'avez quand même dans l'os. Donc, voilà. Ouais. Quand on va sur eBay, on va être honnête, on paye un premium, mais. Il y a tout un tas de garanties derrière, que ce soit pour l'acheteur ou pour le vendeur. Donc oui, on paye plus cher, mais derrière, on a quand même une certaine tranquillité d'esprit. Je me suis très rarement fait arnaquer sur eBay. Alors par contre, sur eBay, il y a énormément de contrefaçons qui traînent. On va en parler un tout petit peu après, dans les trucs à éviter, mais voilà. Le problème du online, c'est ça, c'est quand on peut pas vérifier en vrai, c'est difficile de juger parfois de la qualité d'un item qui est en vente. Même s'il y a des photos de bonne qualité, on arrive à s'en rendre compte, c'est pas toujours facile. On peut se faire avoir de temps en temps. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Voilà, c'est un peu inévitable. Hein. Un des petits conseils que je peux vous donner en ce moment, l'application qui est un peu le vent en poupe, c'est Vinted. On trouve dessus des plans pas trop dégueux en termes de prix. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver des trucs qui sont raisonnables en termes de prix. C'est-à-dire qu'on a des Argus qui sont raisonnables en termes de prix. Vous attendez pas à faire l'affaire du siècle, hein. Ça, c'était valable sur Le Bon Coin quand ils ont démarré, où on pouvait effectivement faire des affaires complètement délirantes. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Ah, mais c'est comme les brocantes à la belle époque. Hein.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens savent qu'il y a des gens qui recherchent des jeux d'occasion. Donc, par contre, ça reste un bon plan, encore une fois, si vous n'êtes pas dans les générations qui sont recherchées. On vous a dit, le prix commence à monter deux générations après. Aujourd'hui, si vous achetez des jeux, oui. Les prix commencent à remonter doucement, mais vraiment très doucement. Ça peut être très bon plan et ça coûte pas très cher. Donc voilà, Vinted, ça peut être assez bon plan. Parce que c'est voilà toujours pareil, de particulier à particulier, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de choses comme ça. Vinted est l'intermédiaire de paiement, il y a quand même un système de réputation et autres qui permet d'éviter les arnaques et autres. Voilà, ça peut être... Ça peut
Est-ce
être bon
que plan. Recommander des forums peut être un bon plan ?
Alors, c'est un très bon plan. C'est un très très bon plan. Il y a notamment le forum de Gameopath qui est assez connu en France. Alors, c'est plus des forums de spécialistes, donc quand on se lance, c'est généralement pas là-dedans qu'on va en premier, mais pourquoi pas. Sur le forum du dojo, il y a un petit peu d'achat-vente, c'est-à-dire que voilà, moi personnellement, quand quelqu'un sur le dojo, alors ça a déjà arrivé, hein, je fais un gros coucou à Chaminou, je vendais un jeu dont je ne souhaitais plus disposer dans ma collection personnelle, et... Mais oui, exactement.
Et en fait, au moins tu te respectes, Mortal. Ça me fait plaisir.
J'ai balancé un peu sur le dojo en disant voilà, je vends tout ça. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Chaminou m'a contacté en disant voilà, tu le vends à quel prix ? Je dis écoute, il cote un peu, je le savais pas, mais je te fais une ristourne. Généralement sur les forums, ça marche beaucoup comme ça. C'est-à-dire que faut pas espérer faire un gros bénéf.
Ouais, souvent c'est moins cher. Ouais.
Souvent c'est moins cher parce que c'est de la main à la main ou c'est entre gens qui se connaissent d'une petite communauté.
T'as peut-être plus facilement le conseil du coup.
Peut-être aussi plus facilement le conseil.
C'est d'ailleurs sur Gameopath que j'ai vendu pour 200 balles ma Super NT noire complète.
Voilà. Full, ce qui est un très bon plan. Hein. C'est un très bon prix. Je précise.
C'était ça ou vendre un connard de République, du coup, j'ai pas hésité. Hein.
Oui, voilà, ça sert qu'effectivement, sur les forums, c'est toujours pareil, c'est comme sur eBay. eBay, tu vends plus cher, mais t'as plus de commissions. Sur un forum, l'avantage, c'est qu'on peut vendre à un prix raisonnable. Faut pas être gourmand, mais quand on cherche à acheter, c'est-à-dire quand on cherche plutôt à collectionner qu'à se débarrasser, ça peut être très bon plan. Et puis, quand on commence à collectionner, de toute façon, il y a toujours un moment où on se retrouve avec trop de choses, et avec le besoin de le vendre, où on se retrouve avec des doubles, et le besoin de le vendre. Où on se retrouve avec des trucs dont on ne veut plus parce que finalement, bah, on avait entendu parler du jeu, on l'a acheté pour essayer, pour voir, machin, on avait essayé 2-3 niveaux sur l'émulateur, puis en fait, bah, le jeu au complet, il est pas terrible. Ça arrive aussi. Ou, voilà, finalement, le jeu, tu l'as fini une fois, pas de valeur sentimentale particulière, au revoir.
Ça ouais, peut être bon plan. En fait, sur les forums, c'est ok, tu fais pas des gros bénéfices, mais quand t'es acheteur, tu payes moins cher aussi, quoi.
Exactement.
Le deal, c'est ça.
Le deal, c'est exactement ça, donc ça peut être un très bon plan. Il y a un autre plan que je peux vous recommander si vous cherchez à commencer, toujours online, c'est des applications de dons entre particuliers. Je pense à Give, par exemple, mais il y en a quelques autres qui existent. Donc c'est des applications dans lesquelles il y a des particuliers qui donnent des trucs. Donc des fois, c'est simplement des gens qui débarrassent leur grenier, et ils en ont rien à foutre du prix que ça vaut, ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser vite. Point. C'est comme ça que moi j'ai récupéré un lot Mega Drive avec une vingtaine de jeux, et une Wii avec 4 ou 5 jeux aussi, gratuitement. Donc j'en avais rien à foutre de la Mega Drive.
Ça marche, les gens proposent, toi tu dis ouais ça m'intéresse, et
c'est ça, et tu viens le chercher.
Se fait, quoi.
Exactement.
Okay.
L'idée c'est que c'est des gens qui n'ont pas envie de se faire chier à aller vendre, à aller faire des frais de port, à aller faire une annonce jolie, tout ça, donc ils disent bah voilà j'ai tout ça, ils prennent une photo en vrac, et tu te démerdes, tu viens chercher.
Okay.
Donc c'est ton problème et ta responsabilité de venir chercher. Par contre du coup c'est en l'état, voilà, sur eBay généralement,
oui.
Une description très précise, là c'est un peu au petit bonheur la chance. Moi, j'ai récupéré une Mega Drive qui, par exemple, dont le son ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu dommage. Mais j'étais très content de l'avoir gratuitement. Il y a un ou deux jeux que j'ai donné à des collègues, il y a quelques jeux que j'ai revendus. Parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir une Mega Drive, mais j'étais content de la récupérer. J'étais content de voir un peu comment ça marchait. Ça m'a permis de faire 2-3 bricoles. Et pas de jeux très rares dedans. Enfin, c'est... Voilà. Mais ça peut être bon plan. Toujours online. Alors ça va être très con ce que je dis, mais il y a des applications en ligne et des sites web qui se sont lancés dans l'achat-vente de jeux vidéo il y a très peu de temps. Je pense à Momox par exemple, qui à l'origine faisait du livre, qui fait aussi du jeu vidéo. Alors le bon plan, c'est que c'est généralement vraiment pas cher, parce que justement c'est très peu connu. Donc ils ont pas des stocks de ouf, mais pour aller acheter le tout venant, ça peut être très bon plan. Parce qu'on a parfois des choses en très très bon état, voire en excellent état, pour des prix qui sont des prix à l'Argus normal. Donc un Super Mario Sunshine sur GameCube, pas l'édition Player's Choice, donc la boîte grise moche, la boîte noire normale de Mario Sunshine, sur eBay en parfait état, machin, ça va coûter je sais pas 60 balles, sur Momox, que l'état soit bon ou pas, ça va coûter 40. Donc c'est un peu la loterie, mais ça peut être très bon plan. Voilà, il y en a 2-3 autres comme ça, je pense à Label Emmaüs aussi. Donc, alors Emmaüs, c'est con, hein, mais ils ont un site web, et on peut faire des commandes dessus, et ils font des expéditions, et on peut récupérer de temps en temps des jeux à des prix raisonnables. Alors c'est rarement des trucs complètement ouf, mais voilà. Mais muse, intervention de muse, spontanée. Bonjour. Non, de l'autre côté.
Ouais, donc Label Emmaüs, ils ont lancé leur site l'année dernière, parce qu'en fait, Label Emmaüs existait déjà en termes de site, mais était pas forcément très, très, enfin, beaucoup fourni. Et les communautés, elles ont, avec la pandémie, elles ont quand même bien pâti de la pandémie, parce que les compagnons pouvaient pas vendre dans les communautés comme ils le font habituellement. Ils étaient pas ouverts au public pendant un certain temps. Et donc, ils ont tous plus ou moins lancé leur site. Alors, effectivement, il y a à boire et à manger. Il y a les sites internet. Alors, c'est plutôt bien documenté. Les prix sont raisonnables. Ça dépend des communautés, mais la plupart du temps, c'est raisonnable. Et puis après, bah, il restera le jour où on aura le droit de sortir les communautés Emmaüs en elles-mêmes, parce que pour le coup, là, on peut avoir des bonnes surprises.
Oui, ça.
La dernière fois que Mortal m'a accompagné dans une communauté, on a chopé quand même une NES.
Une NES. Alors, sans manette, sans rien, mais
sans
la console.
Sans rien,
voilà.
à 10 balles, avec Tortue Ninja 2 dedans.
C'est ça.
Ça, le jeu, il l'avait
fait. Ça fait
pas
plaisir.
Vu. Voilà.
Donc, ça peut être un bon plan. Donc, je vais enchaîner, je vais en profiter pour enchaîner sur les bons plans physiques. Donc, on parlait des brocantes. Quand on pourra ressortir.
Ouais.
Donc l'époque dorée des brocantes dans lequel tu pouvais choper effectivement 50 jeux N64 à 10 balles, bon c'est fini, hein, on va être clair. Mais ça reste un plan correct, faut juste pas espérer trouver du trop ancien. Voilà, généralement là sur les brocantes en ce moment, enfin si on avait le droit de sortir, mais même avant qu'on sorte, on pouvait trouver de la PS3, de la Xbox 360, des choses comme ça assez facilement et à des prix très corrects, de la Wii aussi. Toute cette génération là dont les gens se débarrassent à pas cher.
Est-ce qu'il y a pas des brocantes clandestines, tout comme il y a des restaurants clandestins?
Je ne pense pas, monsieur. Il y a peut-être les puces de Saint-Ouen qui sont ouvertes, je ne suis même pas sûr. Mais bon, c'est possible.
C'est ouvert. Si les puces de Saint-Ouen, c'est ouvert.
Ah, les puces de Saint-Ouen, c'est ouvert, donc voilà.
Oui, c'est en plein air.
Oui.
Non, non, c'est dans les magasins.
Ah oui.
Non, c'est des magasins spécialisés. Non, c'est pas en plein air, t'inquiète pas, j'y passais tous les jours pour aller au boulot.
Voilà, dans les trucs en vrai aussi, les Easy Cash, Dilly Cash et les trucs cash que vous connaissez, les Convert Cash, tous ces trucs-là, il y a un rayon jeux vidéo, généralement il est plutôt bien fourni, et ce que je vous conseille là-bas surtout, c'est les consoles, parce qu'en fait, ils sont obligés de tester qu'elles fonctionnent.
Yes.
Et elles sont en général à pas cher, parce qu'elles prennent de la place, et la place là-bas, bah, c'est de l'argent. Parce que moins on a de place, moins on peut acheter de trucs, moins on peut les vendre. Donc généralement, dans ces endroits-là, t'as des bundles avec des consoles, des manettes, des accessoires, tous les câbles qui vont bien et tout ça, à des prix qui sont plus que corrects. Vraiment plus que corrects. Donc les jeux, c'est pas toujours bon plan, mais par contre les consoles, c'est généralement très bon plan. Aujourd'hui, t'as envie d'acheter une Xbox 360 modèle E, donc les tout derniers modèles, avec un disque dur de 250 Go, deux manettes, un câble HDMI, une alim, tu vas t'en tirer à 50 balles. C'est plutôt pas mal. Donc pareil, quand ça aura le droit de rouvrir et qu'on aura le droit de ressortir...
On va aller faire un casse.
Ça peut être sympa. Dans les bons plans aussi que je peux vous recommander pour les avoir déjà testés, le grenier des collègues et de la famille proche.
C'est le nom du site.
Non, c'est vraiment ce que tu fais.
Ah, ok.
Tu vas racketter tes collègues.
Ok.
Alors voilà, si vous avez des collègues, vous leur dites, bah voilà, je commence à collectionner les jeux vidéo, est-ce que t'as des trucs dans ton grenier dont tu cherches à te débarrasser? Généralement, ils vous les donneront de bon cœur. Pareil pour la famille proche ou éloignée, hein, des cousins, la grand-mère, les choses comme ça. C'est très souvent qu'il y a la console du gamin qui n'a pas été recherchée quand il a eu 18 balais, qui traîne dans le grenier. Voilà, de temps en temps, on chope des trucs sympas. Moi, j'avais un collègue qui m'avait filé une boîte entière de jeux de NES, avec des jeux en boîte, avec des jeux en loose. Il y avait, je crois, une trentaine de jeux au total. Donc, ça fait plaisir. Et je lui avais dit, pour compenser, je lui avais dit, voilà, ce qui m'intéresse pas, enfin, ce qui m'intéresse, je le garde. Ce qui m'intéresse pas, je le vends et je te file la thune. Voilà, c'est un deal à la con. Mais... Le collègue était très content de récupérer un peu de thunes. Je n'ai pas dû lui filer grand-chose au final, parce que j'ai dû vendre, je sais pas, peut-être une centaine d'euros de jeux ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais garder. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Lui, ça lui a fait une centaine d'euros sans se fatiguer. Tout le monde est content. Tout le monde est gagnant. Voilà. Deuxième truc que je peux vous recommander, là, c'est partout, hein, que ce soit sur eBay, Le Bon Coin, Vinted, Give, les brocantes, tout ce que vous voulez. Les jeux qui sont un petit peu abîmés, genre je pense aux jeux de Super NES où l'étiquette est pas nickel, elle est un peu déchirée, elle est un peu, il y a un gros sticker dégueulasse dessus, il y a écrit Jonathan en haut à droite. On a tous eu.
Ouais, j'en ai une, ouais, comme ça.
Voilà, on a tous eu. Ça peut
oui,
être un
ça se nettoie, puis les étiquettes, on peut trouver des remplacements.
Alors moi je vous déconseillerais de remplacer les étiquettes, mais vous avez le choix de le faire. Simplement si vous le faites, débrouillez-vous pour que l'étiquette que vous remplacez soit pas exactement identique et précisez-le quand vous le revendez, parce que c'est... Enfin, c'est pas hyper loyal, quoi, on va dire. Mais l'avantage des trucs comme ça, c'est que, comme je vous l'ai dit dans la toute première partie de l'émission, la valeur des jeux, c'est très exponentiel. C'est-à-dire, plus l'état est nickel, plus ça va coûter cher. Donc sur les jeux qui coûtent vraiment très 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 cher, les jeux trophées un peu, c'est-à-dire les trucs où t'as chopé un Megaman X3, tu vois, c'est le truc qui vaut une fortune sur Super NES. Voilà, le fait d'avoir une étiquette abîmée, ça va énormément décoter le jeu, et donc ça peut permettre de l'avoir, mais à un prix très raisonnable.
Ouais, ça dépend ce que tu cherches, quoi.
C'est ça, si tu cherches juste à avoir le jeu pour pouvoir y jouer ou pour l'avoir dans ta collection, le fait que l'étiquette soit un peu abîmée, normalement t'en as pas grand chose à foutre. Après, c'est à chacun de poser ses limites. Moi je sais que sur GameCube, quand j'ai un jeu qui a pas de mode d'emploi, ça me fait chier. Voilà, j'aime bien avoir les jeux complets sur GameCube, Et je sais que j'ai du mal quand le jeu est un peu abîmé.
Je suis en train de regarder. Il y a un Megaman X3 PAL Super NES complet sur eBay.
600.
5600.
Oui, 600, c'est la cartouche en loose, Zergy. Hein. 5600, ah oui, ça me choque même pas. Hein.
D'accord, oui, il te faut un prêt, en fait. Il faut que tu fasses un prêt.
Il faut hypothéquer ta maison.
5600, et le frais de port est à part. Hein. Va te faire foutre, quoi.
Ah oui, non, mais attends. Attends, t'imagines les... Bah, la dernière commande que j'ai fait sur eBay, il y avait une certaine somme, parce que c'était des jeux Super NES pas très communs, et un vendeur qui vendait genre 6 des 7 jeux Super NES que je cherchais, donc je me suis dit, bon, tant pis, on va se lâcher un peu, c'est pas trop grave. Le mec a quand même envoyé le colis par UPS pour être certain que ça arrive, tu vois.
Ouais, normal. Putain, oui, la cartouche loose en dessous, 750. Waouh.
À un moment, moi, quand j'ai acheté la mienne, parce que j'ai Megaman X3...
Ton assurance est OK avec ça ?
Mon assurance est OK avec ça, je réévalue ça tous les ans.
OK.
On fera ça en dernière partie, ce sera la troisième partie.
Mon Dieu, j'ai peur.
Donc, les jeux un peu abîmés, moi je dis ça peut être bon plan, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on cherche. J'ai un Excitebike 64 par exemple qui est dégueulasse, la cartouche est ignoblissime. Je sais pas, il y a eu de la confiture dessus, enfin vraiment, elle est ignoble.
Il l'a trempée dans son bol de céréales le matin.
Je pense que c'est ça, elle a dû, voilà, mais elle est. Enfin voilà, elle marche, donc j'en ai rien à foutre, je l'ai chopée à genre 1€ sur une brocante, j'en avais rien à péter quoi. Et je chercherai pas à la remplacer, ça me va très bien. Sur les jeux sur cartouche, en tout cas, je trouve que. Voilà. Après, je précise aussi, il y a tout un tas de trucs. Aujourd'hui, les boîtes de remplacement, des choses comme ça, génériques pour de la Saturn européenne, de la PlayStation européenne, de la PlayStation américaine, où c'est juste des boîtiers CD standards, ça existe. Faut pas hésiter, en général, personne vous en veut pour avoir remplacé ça.
Il y a peut-être que la GameCube, où c'est un petit peu plus compliqué à trouver.
Il suffit juste d'acheter tous les exemplaires de FIFA que tu vois.
Ah oui, c'est pas con.
Ça marche très bien, moi j'en ai plein dans un carton. Chaque fois que je vais dans une brocante et qu'il y a un FIFA, je l'achète. En général, je le paye 2 balles et ça me fait une boîte nickel. Il n'y a pas encore de boîte de remplacement GameCube parce que malheureusement elles sont logotées GameCube, donc il y a un copyright et tout ça. Pendant un moment, je sais que Nintendo of America les vendait.
Nintendo US en vendait, ouais.
Mais je crois que c'est plus le cas maintenant.
Mais effectivement, oui, tu peux choper des jeux de merde et puis tu récupères les boîtes. Et pour les boîte en carton, au pire tu peux faire une reproduction, assez, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais personnellement avoir une boîte ou une étiquette de reproduction, moi ça me dérange pas, je préfère avoir un truc de reproduction, mais enfin avec un peu de reproduction mais propre, qu'une espèce de cartouche dégueulasse.
Moi j'aime bien les petites boîtes en plastique qui sont pile à la taille de la cartouche, qui permettent de la mettre dedans, parce qu'au pire des cas tu peux imprimer une petite simili pochette avec genre juste la tranche et le devant et puis les glisser dedans, et en fait ça fait bien, ça prend pas trop de place.
Ah, sinon pour les jeux en cartouche aussi, il y a les éventuelles boîtes de VHS modifiées,
oui,
où la cartouche se met dedans.
C'est ça. Les Universal Game Cases, alors le problème c'est que ça coûte un peu cher et ça prend quand même de la place, ça prend la même place qu'une boîte de VHS, donc ça fait un peu gros. Mais ça marche. On est bien d'accord. Sinon il y avait alors Nintendbox.net dont on a parlé il y a 2 semaines, qui est un site web qui propose des scans de très haute qualité, en fait, de tous ces trucs-là, donc c'est pas très difficile de les réimprimer sur du papier cartonné, effectivement, de replier des boîtes, sachant qu'ils ont fait ils donnaient une astuce pour réduire la taille, en fait, des boîtes, pour avoir un carton qui prenne juste la cartouche, par exemple, sur Super NES, plutôt que d'avoir la cartouche dans l'insert, avec le mode d'emploi et tout ça. Si t'as juste la cartouche, bah, tu peux imprimer la petite version. Ça peut être rigolo, en plus, ça fait une espèce de petite boîte miniature, c'est marrant. Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est un peu comme chacun veut. Moi, la seule chose que je vous recommande, c'est si vous changez une étiquette, si vous réimprimez une boîte, tout ça, débrouillez-vous pour que ça se voit, de sorte à ce que le jour où vous le vendez, ou le jour où vous en débarrassez, la personne qui est en face ne se fasse pas flouer par le fait que c'est pas la vraie boîte d'origine. C'est...
Comme ça, si c'est un collectionneur pointilleux comme Mortel, il n'aura pas à passer 3 heures à vérifier que c'est pas une reprise.
C'est ça. C'est que je vérifie tout.
Faut le savoir, hein, les jeux chez Mortal, ils sont dans une salle blanche, sous vide, et quand il achète un truc, il passe au microscope électronique.
C'est presque ça. Je vais vous donner 2-3 trucs à éviter à tout prix. Enfin, les trucs que je pense qui sont importants quand on débute ce genre de choses-là.
En un, wish.
Alors, donc, effectivement, les jeux qui viennent de l'étranger, alors, la Chine, évidemment. Maintenant, figurez-vous qu'en Espagne ou en Italie, il y a énormément de contrefaçons aussi, sur toutes les plateformes.
Ouais.
Voilà. Et alors, c'est le plus étrange, des fois, il y a des contrefaçons qui sont des contrefaçons d'époque.
Et ça cote
ou
pas,
c'est,
ça,
c'est presque collector, là. Ouais. Attention. C'est alors, la contrefaçon collector, monsieur.
Il y a des gens qui les collectionnent pour de vrai.
Genre Street Fighter Rainbow Edition.
C'est ça, mais t'as des trucs assez hallucinants. T'as genre les cartouches de Game Boy, 130 jeux en un.
Oh c'est mon dieu.
Trucs qu'on a tous vu quand on était petits.
Ben voilà, si tu veux faire des collections.
Je suis une arcade, ça.
Tu collectionnes toutes les.
Toutes les fausses cartouches, ça va être compliqué. Hein.
Mario et Knuckles.
Ouais, c'est un peu ça. Alors après, t'as tout et n'importe quoi dans ce domaine-là. On a fait un petit dossier sur le dojo sur comment reconnaître des contrefaçons de cartouches, notamment de cartouches Game Boy Advance, parce que c'est probablement celles qui sont les plus fréquentes, malheureusement. Parce que même à l'époque de la Game Boy Advance, il y avait déjà des contrefaçons qui tournaient.
Bah, on peut dire toujours à l'époque de la Game Boy Advance.
Elle s'est fait trop le cul très vite, la GBA.
Oui, tout à fait, non mais... Mais t'as vraiment... Et des fois, c'est... Alors, parfois, faut voir que les vendeurs sont généralement pas de mauvaise foi sur le sujet. Hein. Parfois, ils savent même pas qu'ils ont une contrefaçon. Hein. Pour de vrai. Hein. Donc voilà, si le prix a l'air d'être trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Il y a des nids à contrefaçon. Donc encore une fois, on a un petit dossier sur le dojo qui permet d'aller regarder l'état d'une cartouche et d'essayer de reconnaître une vraie d'une fausse. C'est pas toujours facile quand c'est online. Mais on y arrive quand même. Généralement, il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà, méfiez-vous de ce genre de choses-là. Demandez à être remboursé. Allez lire le truc sur le dojo. On a tout un tas d'astuces. Voilà, c'est pas si difficile que ça à trouver, mais c'est pas toujours très évident. Alors, les annonces où il y a écrit rare, super état, tout ça. Bon, méfiez-vous.
Ouais, ou urgent.
Urgent. Faire proposition, enfin bref, il y a tout un tas de trucs comme
Même quand si vous cherchez du boulot plus tard, c'est la même chose. C'est le même fonctionnement, en fait.
C'est le même fonctionnement. Bon, bref, c'est le genre d'annonce. Quand, toujours pareil, hein, comme n'importe quelle annonce en ligne, comme n'importe quel truc en ligne, si ça a l'air d'être trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Et généralement, les gens qui mettent tout un tas de superlatifs devant un jeu, c'est qu'ils essaient de le vendre. Ils vont essayer de gonfler le prix. Ça ne veut pas dire que c'est le bon. Un des bons plans... Alors, il y a un site qui s'appelle argusjeux.fr. Malheureusement, il faut créer un compte. Mais ça vous donne des... C'est une des bases de données qui est utilisée par les revendeurs de jeux, notamment les EasyCash, DailyCash et autres. Généralement, ils se servent de ce type de base de données. C'est pas forcément celle-là.
Il fallait pas de compte, il y a une époque.
Il y a une époque, il fallait pas de compte. Maintenant, il en faut un.
Okay.
Ça change rien que le fait que le truc est gratuit. Okay. Les prix sont parfois un peu à la rue. Notamment sur les trucs un peu collector, ils ont un peu du mal. Mais sur le tout venant... Sur des choses qui sont pas hyper rares ou hyper recherchées, généralement les prix sont plutôt les bons. Alors ça a tendance à être des prix moyens par rapport à une tendance de vente, machin, qui fait que c'est pas toujours. Voilà. Price Sorting, qui est très connu, qui était un site à l'origine qui ne faisait que les jeux américains, qui maintenant fait aussi les versions PAL. Alors Price Sorting, c'est particulier parce qu'en fait ils vont aller récupérer automatiquement les annonces eBay et c'est les gens, enfin les utilisateurs du site qui en fait vont dire non ça c'est une reproduction, ça c'est un machin, et donc en fait c'est vraiment un truc qui est nettoyé très régulièrement par des vrais gens. C'est un truc entre guillemets un peu participatif.
C'est cool.
Et du coup on a une idée des prix, des montées et des descentes, et du prix moyen en fonction de l'état des jeux, qui est plutôt assez fiable. C'est pas parfait, mais c'est relativement fiable aussi. Donc pareil, ça permet éventuellement d'aller débunker une annonce, un jeu qui est vendu 50% moins cher que sa cote normale. Voilà, il n'y a plus Anguille sous roche, là, il y a baleine sous gravillon, normalement.
Je fais une parenthèse de secondes, tu sais, la semaine dernière, on parlait de... Est-ce que la mise à disposition d'un jeu sur quelque chose comme le SNES Online de la Switch avait une influence sur le prix? A priori,
j'ai
oui.
Pas... Ah, j'allais dire plutôt non.
Là, je viens de voir...
Ah, ça fait redécouvrir le jeu et les prix montent. C'est ça, non?
C'est ça, le truc a fait plus 550% en 2 mois. Donc,
sérieux ?
La mise en ligne du jeu, ouais.
Ça me choque pas du tout.
Quel jeu ?
De The Fireman, c'est un jeu de pompier
ouais.
Qui est assez difficile à jouer d'ailleurs.
Et qui est assez difficile à trouver aussi. C'est une partie de jeu pas évident à trouver sur Super NES. Et qui est un jeu sympathique, hein, mais pas extraordinaire. Mais bon.
Ouais, faut rentrer dedans, quoi. Mais ouais, c'est fou.
Alors dans les trucs à éviter aussi, moi ce que je déconseille, surtout si vous êtes un débutant en la matière, c'est tout ce qui concerne le marché du scellé, c'est-à-dire les trucs qui sont neufs sous blister.
Ça coûte une blinde.
Alors d'abord ça coûte très cher, mais après...
Et ça sert à rien.
Ça sert pas à grand-chose parce qu'on joue pas au jeu.
Non, Ouais, c'est pas le même délire.
C'est fait pour se branler.
C'est un peu faible, c'est un peu de la masturbation, mais surtout, il y a à peu près aucun moyen de prouver qu'un scellé est authentique. À quelques détails près, les scellés Nintendo ont tendance à avoir une petite étiquette Nintendo dessus. Vous l'avez vu quand vous avez déballé vos jeux Switch Nintendo. Il y a une tirette, en fait, où il y a écrit Nintendo en rouge. Mais même ça, on peut le reproduire.
Attends, c'est le bon plan. Ouais. T'achètes la machine à sceller, à mettre sous cellophane et...
C'est ça.
Et voilà.
Alors, je précise que quand vous êtes conscient du fait que c'est pas un vrai scellé, vous en avez rien à foutre. Par exemple, moi, j'avais le Extreme G Wrestling Association que j'ai acheté sur GameCube. Il était vendu comme étant scellé. Je savais très bien que c'était un faux scellé. Mais comme c'était pas cher, j'en avais rien à foutre. La différence entre le prix scellé et décellé était la même. J'ai eu confirmation en le déballant. Le mode d'emploi était corné. Ça n'arrive pas en usine. Ça n'est pas possible. Alors, il y a des trucs bizarres qui arrivent en usine de temps en temps. L'exemplaire que j'ai acheté de Tesla Grad sur Wii U, il y avait une cacahuète dedans. Pour de vrai.
Ah bah, c'est le cadeau bonus.
Il n'était pas écrit sur l'emballage, fabriqué dans une usine, qui utilise des fruits à coque.
C'est ça, peut contenir des fruits à coque.
C'est l'ultra collector, quoi.
Voilà, bon, bref. C'est... Voilà, le marché du scellé...
En fait, ça, la folie des Amiibo qui avait un problème...
Oui, c'est ça, oui, non, c'est exactement ce genre de truc-là.
Peach qui avait pas de bras, qui se vendait une
des millions.
Parce qu'elle avait un problème.
Peach qui avait pas de culotte aussi.
Ouais. Oh. Ah merde, voilà, c'est un défaut. Oh là là.
Donc le marché du scellé, du neuf emballé sur du... Enfin, c'est compliqué. Honnêtement, c'est très très compliqué. Voilà, c'est... Bon, moi je vous le déconseille, surtout qu'en plus... Alors ça m'est arrivé aussi, une fois... Je n'ai jamais eu la vraie explication. J'avais commandé, je sais plus, ça devait être un jeu 3DS. Je sais plus lequel.
La 3DS qui a commencé à décoller, j'ai l'impression, au niveau des presses qui paraît.
Apparemment, il y a une histoire de cartouches qui sont plus fonctionnelles au bout d'un moment avec la 3DS.
Oh!
Oui, et ce qui va arriver sur Switch d'ailleurs.
Alors, c'est que... ça a été corrigé. Enfin, il y a des gens qui disaient qu'au bout de 10 ans ça marcherait plus. C'était un mec sur Twitter et t'en as un autre qui a corrigé pour dire non, mais c'est des cartouches qui sont faites pour être pour tenir 20 réécritures à 85 degrés, ce qui n'arrive pas dans un environnement normal sur 3DS.
Oui.
Donc on sait pas.
Mais il me semble que ce qu'il disait, c'est qu'on est passé d'une. Alors, je me rappelle plus exactement des termes. C'est que on est passé d'une cartouche, je sais plus quoi, à EEPROM, c'est ça ?
Alors, l'EEPROM...
Parce que c'était moins cher.
C'est oui, dans les cartouches NES à la N64, enfin les cartouches qu'on avait dans les années 80-90, les grosses, c'était une EEPROM. C'était une grosse puce où on flashait le jeu dessus et c'était juste de la lecture seule, point barre. Et maintenant, c'est à peu près des cartes SD.
C'est de la mémoire flash, mais plutôt de très bonne qualité. C'est-à-dire, c'est pas la carte SD que t'achètes chez le marchand du coin, normalement. Et en plus, elle ne subit pas d'écriture.
Mais bon, du coup, en tout cas, ils disaient qu'ils étaient passés d'une certaine technique, pendant l'époque de la 3DS, ils étaient passés d'une certaine technique à une autre parce que ça coûtait moins cher, mais ce qui faisait que, apparemment, les cartouches de Switch ne dureront que 35 ans, un truc comme ça, ou 45 ans.
Ça devrait aller.
Et
D'ici là, il y aura plus d'électricité, hein.
Voilà, c'est ça.
C'est
bon, il y a ça, mais ça reste quand même. Enfin, ça reste quand même pas énorme. Après, je pense que le monde sera à bout de Joy-Con avant d'être à bout de jeu Switch.
Il restera
surtout
que.
Oui, c'est vrai, les manettes pro. Mais surtout que, comme la Switch est craquable extrêmement facilement, il y a moyen que, de toute façon, les cartouches ne servent plus à rien.
Voilà, on en a déjà parlé quand on parlait de préservation. De toute façon, les pirates sont toujours là pour préserver. C'est triste, hein, mais techniquement, ça existera toujours. J'en suis certain.
Et finalement, c'est peut-être la seule garantie de la préservation dans le temps.
Exactement. Après, encore une fois, quand tu collectionnes pour te faire plaisir, tu collectionnes pas pour dans 45 ans.
Ouais, c'est pour l'objet, quoi.
C'est pour l'objet aussi. C'est mieux s'il marche, hein, voilà.
Ah non, oui, pour l'objet utile, quoi.
Je vais juste finir par 2-3 petites astuces qui peuvent servir quand on débute. La première, c'est cataloguer. Quand on commence à en avoir beaucoup, c'est compliqué de pas avoir de double, et surtout, c'est compliqué de se trimballer avec une photo complète de toute sa collection sur soi, même si c'est peut-être un peu plus faisable maintenant qu'il y a quelques années, mais voilà.
Cataloguer. Donc à Excel.
Ouais, voilà. C'est, le tableur de merde, pour commencer, c'est très bien, et même quand on en a plus, c'est très bien, mais cataloguer tout. Cataloguer ce que vous avez, c'est-à-dire est-ce que vous avez la boîte, le jeu, le mode d'emploi, voilà, cataloguer systématiquement, de sorte à ce que si vous vous retrouvez dans un coin où vous n'avez pas accès à votre collection, quelle que soit la raison, et que tout d'un coup, paf, il se présente un Baton Kaitos complet en boîte à un prix vraiment raisonnable sur une brocante, que vous ne soyez pas comme un con à vous dire ah, merde, est-ce que je ne l'ai pas déjà ? Ou est-ce que je ne l'ai pas déjà, mais dans un état mieux que ça ? C'est con.
Ça pour tout, hein, d'ailleurs. Même si vous avez une grosse bibliothèque de DVD ou quoi,
exactement.
Un petit tableau Excel avec, avec exactement, exactement ce que vous avez, ça sauve la vie. Hein.
Un petit tableur, mais même pour les gens qui si vous collectionnez. Mais en fait, quand on collectionne n'importe quoi, que ce soit des livres, des figurines, ce que vous voulez, oui, un petit tableur, tout con, avec simplement ce que vous avez, dans quel état c'est. Si vous avez envie de compléter avec, je sais pas, genre le numéro de série, histoire d'avoir un truc où vous êtes capable de repérer une différence régionale, ça arrive de temps en temps. C'est tout con, mais des fois, il y a plusieurs éditions du même jeu, c'est arrivé sur GameCube, vous avez plusieurs pressages du même jeu, donc vous avez des petites corrections. Ça peut être intéressant d'avoir la dernière, celle qui a moins de bugs. Ça peut être intéressant d'essayer au contraire de choper une plus ancienne, parce que justement, elle va avoir certains bugs un peu rigolos.
Sauf si t'es speedrunner.
Et justement, en plus si t'es speedrunner. Non seulement si t'es speedrunner.
Je rajouterai un conseil, c'est faites-le au fur et à mesure.
Oui, pas tout à la fin.
Ouais, là j'ai du retard, j'ai une flemme.
Ouais, mais du coup tu vas finir par acheter des doubles.
Mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé une fois. Et je me suis vraiment trouvé très très con.
La deuxième petite astuce, avant de terminer, j'en aurai une petite dernière juste après et ensuite on finira. La deuxième, c'est acheter des jeux incomplets. C'est pas grave. C'est toujours plus facile de compléter un jeu après, une fois qu'on l'a, c'est toujours plus facile à compléter, et vous aurez toujours des occasions de les compléter, plutôt que d'essayer absolument de choper le jeu complet en boîte, qui va vous coûter un bras si en plus il est en bon état.
Et en plus, c'est moins cher, souvent.
C'est généralement moins cher quand c'est en pièces détachées, et c'est très souvent que on tombe sur des gens qui, en fait, enfin moi ça m'est déjà arrivé, je vendais sur eBay, en fait, une certaine version d'un jeu, je crois que c'était sur GameCube, je vendais une version Player's Choice sur laquelle il n'y avait pas le mode d'emploi, parce que je l'ai récupéré comme ça, je ne sais plus pourquoi. Et en fait, elle a été achetée sur eBay par un mec qui m'a dit « Mais alors moi, j'ai la version normale du jeu avec le mode d'emploi, mais ce que je voudrais, c'est avoir la Player's Choice. » Ou le contraire, enfin, je ne sais plus comment je m'étais foutu, mais en fait, le mec m'a contacté en disant « Est-ce que tu veux qu'on fasse juste un échange ? Je te file le mode d'emploi. » De la version Player's Choice, tu me files le mode d'emploi de la version normale et comme ça chacun de nous deux peut vendre un exemplaire complet. C'est con, mais ça arrive.
Ah, mais c'est cool.
Voilà, c'est cool, ça arrivera quand tu collectionnes, ça arrive.
En truc incomplet, j'avais retrouvé chez mes parents la boîte et la notice de Ultraman sur Super NES.
Oh la classe!
Et j'ai dû le vendre 2€ sur eBay, mais genre il y a plus de 15 ans.
Il y a plus de 15 ans, ça m'étonne pas. Mais voilà, donc acheter de l'incomplet, c'est pas grave. Dans les conventions genre Japan Expo, dans les magasins République, parfois dans les Easy Cash et autres, on peut trouver des modes d'emploi, on peut trouver des boîtes vides, et sachez que de toute façon, tout se revend. C'est-à-dire que si vous avez chopé un DuckTales sur NES, que la boîte est un peu dégueulasse, mais que le mode d'emploi est en bon état, le jour où vous chopez une boîte en meilleur état, vous pouvez toujours revendre la boîte en mauvais état, ça se vendra. Pas cher, mais ça se vendra. Donc il y a vraiment... Faut surtout pas passer à côté d'un jeu parce qu'il n'est pas exactement dans l'état dans lequel vous l'attendez. C'est dommage. Alors sauf évidemment quand c'est sur eBay ou des choses comme ça, où vous cherchez un truc très précis. Mais quand on cherche pas un truc très précis, voilà, sur une brocante, il faut toujours
si
prendre.
C'est l'occasion de se rendre compte que c'est un jeu de merde et que finalement ça vaut pas le coup d'insister.
Exactement. Mais ça, moi j'avais chopé un Twilight Princess GameCube sur une brocante. Les brocantes du Vésinet, hein. Big up.
Meilleure version.
Voilà, et les encombrants, oui, ça arrive de temps en temps. Mais voilà, les brocantes du Vésinet, c'est la même brocante où j'avais chopé un Mario Kart Game Boy Advance en boîte, complet. C'est un truc que tu trouves jamais nulle part. Une GameCube édition Resident Evil 4, sans câble, j'ai dû la payer 5€.
Putain.
Donc t'es content, tu...
Avec la manette ?
Sans manette, non.
Ah merde.
C'était juste comme ça. Bah si tu veux, sans câble, sans rien, 5€, je me suis dit, bon, tant pis, je l'achète, je m'en fous, quoi. Même si elle marche pas, au pire, je mettrai les entrailles d'une autre GameCube dedans, je m'en tape. C'est juste rigolo. Et donc un Twilight Princess GameCube qui avait pas le mode d'emploi, que j'ai dû payer 2€, un truc comme ça. Donc, voilà, le mode d'emploi, j'ai chopé un peu plus tard.
Ouais, moi, justement, un truc incomplet que j'ai réuni, J'avais le CD collector Zelda GameCube.
Ben voilà.
J'ai acheté la boîte et la notice après. Parce qu'en fait, j'avais acheté la version Mario Kart avec le CD à l'intérieur. Enfin bref, j'ai pu me démerder.
Donc, Frankenstein est un jeu, ça se fait bien. Alors, je précise qu'il y a des collectionneurs que ça défrise, notamment parce que il y a des... Tu peux faire parfois des mélanges un peu douteux.
Des chimères.
Voilà, genre, tu as le mode d'emploi de la deuxième édition de Super Mario Bros. 2 USA, mais la cartouche de la première édition et la boîte de la troisième, il y en a, ça les défrise.
Mais il y a des différences?
Oui, il y a un petit 1.
Oh, oui, non, mais ça, là, monsieur, on est au niveau, c'est des nazis, quoi.
Oui, non, mais il y en a, hein. Je dis juste, il y en a, donc... Voilà, maintenant, Frankenstein et des jeux, moi ça me choque absolument pas, au contraire, c'est vraiment bon plan. Je pense qu'il faut pas hésiter à le faire. Et voilà. Et donc le dernier truc que j'ai à vous conseiller, c'est bien, je vais vous renvoyer sur un autre article du Dojo. Ça me fait plaisir. Plein d'autopromo aujourd'hui. Nettoyez vos cartouches, nettoyez vos CD, nettoyez. Voilà. Nettoyez-vous, prenez des douches régulièrement, c'est important l'hygiène.
On est en live et ça sent là, c'est...
c'est chaud. Non mais voilà, évitez de laisser les choses dans un état où ça risquerait de les abîmer encore plus. Je pense aux cartouches, il y a des connecteurs en cuivre, les contacteurs sont en cuivre, ça s'abîme très vite, notamment quand il y a de l'humidité, de la poussière dessus... des cochonneries, ça se nettoie très bien. Je crois qu'on n'a pas fait d'article sur ça. Faudrait peut-être que j'en fasse un, parce qu'il y a quelques petites astuces à la con qui sont très utiles.
Souffler dans sa cartouche, est-ce vraiment utile?
Non, et il ne faut surtout pas le faire.
Ça oxyde les contacteurs.
Exactement, mais nettoyer les contacteurs, en fait, tu fais ça avec de l'alcool ménager, tout bêtement, de l'alcool à 90.
Mais c'est gâché.
Bah, non.
Tu bois.
Tu peux boire un petit coup au passage, mais par exemple, il y a un truc très bête pour nettoyer des contacteurs qui sont un peu gras. Bah, tu démontes la cartouche, tu passes un coup de gomme dessus.
Ah ouais, gomme à papier.
Ça marche super bien.
Gomme à crayon papier, quoi.
Gomme à crayon papier.
Ok.
Ça marche super bien. Pareil, il y a des genre des produits spéciaux entretien cuivre, genre mirror. Bah...
Non, il paraît que non, le mirror ou le polish, non.
Ah, je savais pas. Bah, tu vois. Bonne chose à savoir.
Il y a des gens, genre Voltar, ils disent non. Donc,
d'accord.
Voilà.
Parce qu'il y a d'autres gens qui disent oui. Mais si Voltar dit non, je pense qu'on peut lui faire confiance. Parce que je crois que c'est légèrement abrasif, en fait.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
Donc peut-être qu'une fois ça passe, mais pas deux, quoi. Faire un peu gaffe. Mais sinon, l'alcool, la gomme, ça
ouais,
marche bien.
Ouais, les miens, je les nettoie avec de l'alcool à 70 ou un truc comme ça, enfin de l'alcool médical, ça marche très bien.
Voilà. En tout cas, ça marche. Pareil pour les cartouches.
Du gel pour les mains, ça fonctionne. Laissez 1,50 m entre vos cartouches. Tout ira bien.
Mettez-leur des masques.
Non, alors faut aussi nettoyer les cartouches parce que le plastique, ça s'abîme, ça prend le soleil. Voilà, les autocollants, c'est très emmerdant à enlever, mais ça peut valoir le coup de les enlever quand c'est pas sur l'étiquette. Parce qu'en général, là, c'est un peu compliqué. Rien ne remplace un bon vieux sèche-cheveux, un petit coton-tige avec de l'alcool... Voilà, tout ça fonctionne. Nettoyez vos cartouches, ça ne vous coûte pas grand-chose quand vous les récupérez, nettoyez-les. Ça permet quand même d'être certain qu'elles sont en bon état, d'être certain qu'elles marchent, et d'être certain qu'elles continueront de marcher pour les siècles des siècles. Non, c'est pas vrai, ce ne sera pas pour les siècles des siècles, mais elles continueront de marcher le plus longtemps possible. La dernière chose, c'est vérifier vos jeux, dumpez-les, si vous le pouvez. Et on a deux articles sur le dojo pour dumper des jeux. Super NES, N64, Mega Drive, Master System, GameCube et Wii. C'est très simple à faire sur les jeux qui sont sur CD, genre les jeux de PlayStation, de PlayStation 2. Alors de PlayStation 3, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça doit pas être si compliqué que ça non plus. Parce que c'est juste un Blu-ray. Donc faut avoir un lecteur Blu-ray dans son PC, mais ça doit pas coûter très cher. Moi j'en ai un, donc ça doit pas coûter très cher. Voilà, dumpez vos jeux, en fait, c'est-à-dire vous prenez un programme tout con qui va faire une copie complète du jeu. Sur GameCube, sur Wii, on a tout un article dessus pour expliquer comment transformer une Wii, la pirater pour lui faire dumper tous les jeux. Donc ça permet simplement d'aller vérifier que le jeu fonctionne. Sur Super NES, sur NES, sur N64, alors sur NES non pas encore, ça va venir, mais voilà, il y a un petit accessoire que Zergy, d'ailleurs tu t'es acheté, me semble-t-il.
Oui, toi aussi.
Bah oui, moi je l'ai aussi. Donc ça coûte un petit peu cher, mais ça peut valoir le coup quand on commence à avoir une grosse collection. Parce que le seul vrai moyen de vérifier qu'un jeu fonctionne, c'est vraiment de dumper l'intégralité de la ROM. Quelle que soit la console, en fait. C'est le seul moyen de s'en assurer. Le simple fait que le jeu boot, ça ne veut pas dire qu'il fonctionnera, parce qu'il peut très bien avoir une rayure au milieu. Il peut très bien avoir un secteur défectueux, il peut très bien y avoir une pin de la cartouche qui est utilisée que dans le niveau XY.
Dans ce cas-là, on peut pas le rip.
Dans ce cas-là, on peut pas.
Ah bah, tu peux pas le...
Tu peux pas le riper.
Voilà.
Complètement.
Et aussi, pour les cartouches, bah, faut remplacer les piles au bout d'un moment.
Oui, il y a aussi ça. C'est chiant à faire, mais malheureusement, c'est nécessaire. Il y a des astuces qui permettent d'éviter de perdre la sauvegarde qui est dessus. Ça marche pas toujours. Le petit accessoire dont on parlait, qui est vendu par le site allemand, comment ça s'appelle, Dragonbox, je crois, .de. Enfin, il y a un article sur le dojo là-dessus pour dumper les jeux N64. Permet de sauvegarder la sauvegarde, donc d'aller prendre la sauvegarde qui est sur une cartouche, d'aller la jeter sur le PC, et donc de pouvoir la préserver. Et donc, si on doit changer la pile de la cartouche, bon, on peut la changer, puis derrière, on peut aller réinjecter la sauvegarde d'origine. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais ça se fait. Et c'est très rigolo à faire d'ailleurs. C'est un accessoire. Tu branches ta cartouche de N64 et elle est vue comme une clé USB. Donc du coup, c'est très bizarre en fait. Une espèce de clash.
Transpire pas un peu.
Si, un petit peu, parce que
pendant l'opération.
Si, est-ce que je vais l'abîmer, est-ce que machin. Et en fait, non. C'est tout à fait safe. Ça a été fait par des gens qui sont des.
Ça fait un peu clash des générations, quoi. Ça fait les années 80 rencontrent les années 2000.
C'est un peu ça. Voilà. Pour l'instant, je crois que c'est pas dispo sur NES, mais c'est dispo sur tout le reste. Donc voilà. Nous en avons fini, ça a duré beaucoup trop longtemps comme prévu.
Un dojo bar de 45 minutes.
Voilà. Parfait.
Plus une heure.
Parfait, parfait. Donc du coup, on va vous abandonner là. Voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée, on va vous faire de très gros bisous. Et on va vous dire, dans 2 semaines, nous aurons cette 3e partie avec, je l'espère, un invité. J'espère qu'il ne va pas décommander pour la 3e fois.
On ne peut pas faire de bisous avec la pandémie, tout ça.
Jamais 203.
Ouais, je pense que ça va se finir comme ça, mais c'est pas très grave. Et donc, je ne sais pas quel sera le sujet à part la 2e partie. Effectivement, on va finir ça.
On n'est pas à l'abri d'un direct.
Non.
Bah, prochain direct, ce sera le 3. Hein.
Quand il y a le bilan annuel, il n'y a jamais de direct dans la foulée.
C'est une règle d'or chez Nintendo. Très respectée.
De toute façon, il n'y a plus de direct.
La règle d'or, c'est de nous faire chier de faire les directs le jeudi après l'émission.
C'est parfait, ça. Ça, en général, c'est parfait.
Du coup, il faudrait faire les dojo bars le vendredi soir, avant le week-end.
Oh putain. Non, monsieur, ça ne va pas être possible. Ce que je sais, c'est qu'il y aura une émission spéciale Mario Golf, puisque Mario Golf, Super Rush.
Mario Trump.
Sort le, je crois, 25 juin, donc il y aura forcément une émission sur le sujet. Et je sens qu'il va y avoir du monde qui va vouloir venir, notamment sur le forum.
25 juin, tout à fait.
Je pense que je vais lancer un appel. Bref, en tout cas, on vous laisse là, on vous fait des gros bisous, et on vous dit à dans 2 semaines.
Bisous, ciao.
Bisous. Bisous tout le monde.
Bisous, bisous. Salut.